السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous sommes ce soir le mercredi 28 Rabi al Thani 1428 de l'Hégire, c'est-à-dire le 16 mai 2007 d'après le calendrier chrétien. D'abord, je voulais pas couper le verset au milieu. Non, j'ai pas pu. J'avais donné le point rouge bien après, mais yani, ça a tardé. C'est pour ça que ça a coupé le verset. Nous sommes toujours avec la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va faire juste une petite révision avant de commencer, incha'Allah ta'ala. La dernière chose dont on a parlé, c'était adhkar rukou, les évocations dans le rukou. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais qu'est-ce qu'il fallait dire dans le rukou? On avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait dans le pilier de le rukou différents types de rappels d'Allah et d'invocation, en choisissant des fois l'une et des fois l'autre parmi les suivantes. Il y a à peu près, il y a ici dans le livre 7, j'en ai choisi 4. Tayyib. La première chose qu'il disait, ou que j'ai choisi, Subhana Rabbi al-Azim, trois fois. Quand on fait le recours, on dit Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, trois fois. Naam. J'ai dit que, et quand on faisait le recours, on faisait un recours, yani, masha'Allah, et que on essayait d'être très droit, hein, afin que si on posait quelque chose sur notre dos, un verre d'eau, rien ne coulerait, bi'idhnillah. Naam, rien ne coulerait, bi'idhnillah azza wa jalla. Et j'avais dit aussi une chose très importante, que quand on faisait le rokou, on devait mettre les mains sur les genoux agrippées. C'est-à-dire, on doit ouvrir les doigts et non pas les fermer. On pose les paumes et on laisse les doigts ouverts. C'est comme si on s'agrippait à quoi? C'est comme si on s'agrippait au genou. Ensuite, on doit avoir la tête, le cou, on le laisse aller vers l'avant. On ne le descend pas vers le bas. On le laisse aller vers l'avant comme ça, on le fait sortir des épaules. On fait sortir des épaules, on le laisse aller vers l'avant et on regarde à l'endroit où on va se prosterner. On ne met pas notre tête, comme font beaucoup, yani, presque entre nos genoux. La tête, on ne la descend pas beaucoup. Non, on la laisse comme ça, bien droite avec le dos, pour que ça forme avec le dos un angle de 90 degrés avec le dos et nos jambes. Non. Ensuite, j'avais dit autre chose aussi importante, c'est que non, ni on descend beaucoup la tête, comme je viens de dire, mais on la laisse juste comme ça un peu levée. Mais on doit, comme je viens de dire, faire avec elle et le dos par rapport à nos jambes un angle de 90 degrés. Omhajar, si tu peux, inchallah ta'ala, écrire en rouge, naam. Ou bien, je ne sais pas pourquoi il me paraît très fin, hada, je ne sais pas. Je ne sais pas quel numéro tu as choisi de la police. Al-Muhim, écrire en rouge, biiznillah ta'ala. Et de temps en temps, il disait aussi Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. au lieu de dire Subhan Rabbi, Rabbi al-Azim, trois fois, il disait aussi Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Comme ça, trois fois, Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdihi, Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdihi, Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdihi. MashaAllah, c'est plus clair. Non. C'est-à-dire, ça donne en français, comme est parfait mon Seigneur, le Suprême, qu'il soit loué. Comme est parfait mon Seigneur, Subhan Rabbi al-Azim, le Suprême, l'Azim, qu'il soit loué. Naam wa bihamdi. Subhan Rabbi al-Azim wa gloire. Naam. Gloire. Comment qu'elle a dit? Naam. Gloire et pureté à mon Seigneur, le Très Grand. Soit loué soit-il. Loué soit-il. Naam. De temps en temps, il disait aussi Subbuhun, Quddusun, Rabbul Malaikati wa Ruh. Subbuhun, Quddusun, Rabbul Malaikati wa Ruh. Ça aussi, on le dit de temps en temps. On le dit de temps en temps, au lieu de dire par exemple Subhan Rabbi al-Azim, on dit aussi Subbuhun, Quddusun, Rabbul Malaikati wa Ruh. C'est-à-dire, parfait, béni est le Seigneur des anges et de l'Esprit. Parfait, béni est le Seigneur des anges et de l'Esprit. Ce n'est pas la peine de vous dire que tous les hadiths sont véridiques et authentiques. Ce n'est pas la peine de vous dire cela. Vous connaissez la règle déjà. On lit d'un livre de Cheikh Al-Albani, vous connaissez Cheikh Al-Albani, qu'il ne cite jamais un hadith qui n'est pas au moins bon. Au moins bon. Donc, parfait, béni est le Seigneur des anges et de l'Esprit. L'Esprit, c'est qui? C'est Jibril, alayhi salam. Ruh al-Qudus. Ruh, naam. Quatrièmement, il disait de temps en temps, Subhanak Allahumma wa bihamdik, Allahumma khfirli. Subhanak Allahumma wa bihamdik, Allahumma khfirli. Naam. Comme tu es parfait, ô Allah, à toi appartiennent les louanges. Ô Allah, pardonne-moi. Subhanak Allahumma wa bihamdik, Allahumma khfirli. Subhanak Allahumma wa bihamdik, Allahumma khfirli. Subhanak Allahumma wa bihamdik, Allahumma khfirli. J'avais dit une fois que ces doigts, vous pouvez les copier, les coller. Non, les copier, les coller dans un fichier. Comme ça, quand l'insan, il a des doutes ou là, il a oublié une chose ou là, il revient directement à son fichier et il voit qu'est-ce qu'on doit dire. Non, gloire et pureté à toi, ô Allah, notre Seigneur, et à toi la louange, ô Allah, pardonne-moi. Bien sûr, il y a une grande différence entre l'arabe et le français. Quand on lit en arabe et on lit en français, il y a une grande différence. Ensuite, il y avait d'autres que la fois passée, j'ai seulement lu, parce que ces doigts sont un peu longues. Cinquièmement, il disait Allahumma laka raka't wa bika amant wa laka aslamt anta rabbi khasha alaka sim'i wa basari wa mukhi wa azmi wa fi riwaya izami wa fi riwaya wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Naam. Donc il disait, oh Allah, pour toi je me suis incliné, en toi j'ai cru et à toi je me suis soumis. Tu es mon Seigneur, mon oui, ma vue, ma moelle, mon os et mes tendons, et ce que portent mes pieds s'humilie devant Allah, maître des mondes. Et des fois il disait Allahumma laka raka't wa bika amant wa laka aslamt wa alayka tawakkalt anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azami wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Et des fois il disait, tout ça c'est la révision, des fois il disait Subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. C'est-à-dire, comme est parfait celui qui détient la toute-puissance, la royauté, la magnificence et la suprématie. Tayyib, on va commencer inshallah ta'ala le jadid, le nouveau, bismillahir rahmanir rahim. Le titre c'est faire durer le recours. Le recours, quand on le fait, on va le faire durer. Naam, on va le faire durer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en sorte que son rukou', sa position debout après le rukou' aussi, son sujoud et sa position assise entre les deux prosternations soient presque égaux en longueur. C'est comme j'ai dit une fois, il avait une salat, masha'Allah, très équilibrée. Il avait une salat, masha'Allah, très équilibrée. Sa position debout, quand il lisait, ensuite il a dit sa position après le rukou', ensuite quand il est dans le sujoud, Ensuite, quand il s'assoit entre les deux prosternations, c'était presque égal en longueur. En longueur, naam. Taïb. Le nouveau titre de l'interdiction de réciter le Coran dans le rukou. Naam, de l'interdiction de citer, pardon, naam, de réciter le Coran dans le rukou. On avait dit, donc maintenant je me rappelle tout ça, je crois qu'on est toujours dans la révision, on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait la récitation du Coran dans le rukou et aussi dans le sujoud. Par ailleurs, il disait ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-Rabb 'azza wa jalla wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a'i faqamin an yustajaba lakum. C'est-à-dire, il a dit, vraiment, il m'a été interdit de réciter le Coran durant le ruku' ou le sujoud. Dans le ruku', cependant glorifiez-y le Seigneur puissant et sublime. Quant au sujoud, faites un effort dans les invocations, car il est plus susceptible que vous soyez ainsi exaucé. Il est plus susceptible que vous soyez ainsi exaucé. J'avais dit, si vous vous rappelez, j'avais dit que l'interdiction de lire le Coran, c'est quoi? C'est de lire le Coran, de lire des passages. Non, c'est ça ce qui est interdit. Par exemple, quelqu'un, il fait le recours, ensuite il dit, par exemple, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ صَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Ça, c'est interdit. La même chose dans le sujoud. Quand on fait le sujoud, on fait des douas, on ne lit pas le Coran. Mais, s'il y a un verset qui, ou duquel on va tirer un doua, ce n'est pas interdit. Malgré que ça soit du Coran, parce que ce n'est pas l'intention de lire le Coran, mais c'est l'intention de faire un doua avec le Coran, avec un verset. Comme par exemple, quelqu'un qui est dans le sujoud, qu'est-ce qu'il dit? Il dit par exemple, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi l'akhirati hasanatan wa qina adabna. Ça c'est du Coran, mais je n'ai pas lu le Coran. Non, je n'ai pas lu le Coran. J'ai cité un doua, car c'est un doua. Non. Donc si c'est un doua, spécialement, même s'il est du Coran, on peut le faire à condition que ça soit dans le sujoud. On avait cité le délit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé une nuit à réciter un seul verset qui disait In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Il l'a beaucoup dit tout en étant debout, tout en étant incliné et tout en étant prosterné. Taïb. Qu'est-ce que l'on doit dire lorsque on se redresse du ruku? Qu'est-ce que l'on doit dire lorsque on se redresse du ruku? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam relevait son dos du ruku en disant Sami'a Allahu liman hamidah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam relevait la tête du ruku, il disait Sami'a Allahu liman hamidah. Naam. Ici, celui qui a le livre, il a traduit Allah entend celui qui le loue. Mais je ne crois pas que ça soit ça la traduction. Naam. Sami'a Allahu liman hamidah. Ici, Sami'a, c'est yani Allah subhanahu wa ta'ala exauce. Naam. C'est exauce. Ici, j'ai dit l'autre, il avait écrit et c'est entend. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également ordonné à celui qui priait de façon incorrecte, qu'est-ce qu'il lui a dit? La prière d'aucun parmi les gens n'est complète jusqu'à ce qu'il dise le takbir, puis fasse le recours et qu'il dise ensuite Sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a Allahu liman hamidah. Ici, Sami'a, c'est exauce, comme Ibrahim alayhi wa sallam a dit dans le Coran Inna Rabbi. C'est-à-dire il exauce mes doigts quand je les fais. Taïb. Lorsqu'il relevait sa tête du sujoud, il restait debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il relevait sa tête du ruku', ici c'est écrit du sujoud. ici c'est écrit du sujoud. Une seconde que je corrige ici le livre. C'est écrit lorsqu'il relevait sa tête du sujoud, alors que c'est du rukwa. Lorsqu'il relevait sa tête du rukwa, il restait debout jusqu'à ce que chaque vertèbre retourne à sa place. Abu Daoud, c'est un hadith authentique. Donc, on dit Sami'a Allahu liman hamidah. Quand est-ce qu'on dit cela? À partir du moment où on commence à se lever et on le dit tout en revenant. Sami'a Allahu liman hamidah jusqu'à ce que je me retrouve debout. Naam. Donc maintenant j'ai mes mains collées aux genoux et maintenant je vais me relever. Dès que j'enlève mes mains pour me relever, je dis Sami'a Allahu liman hamidah en même temps. Et je suis en train de dire cette phrase jusqu'à ce que je me trouve debout. Maintenant, me trouvant debout, je n'ai pas le droit de me prosterner, mais je dois attendre jusqu'à ce que les vertèbres reviennent à leur place, jusqu'à ce que les os rentrent dans leurs articulations. Non. Ensuite, il disait, tout en étant debout, Rabbana wa lak alhamd. Tout en étant debout, il disait Rabbana wa lak alhamd. C'est-à-dire, notre Seigneur, et à toi appartient la louange. Notre Seigneur, et à toi appartient la louange. Naam. Donc il disait, Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lak alhamd. Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lak alhamd. Il ordonna à tout prieur qu'il prie derrière un imam ou non, de faire comme ce qui précède. C'est-à-dire que il doit dire du rukou' la même chose que ce que vient de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. Il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam a été institué afin qu'il soit suivi. Quand il dit, l'imam, quand il dit, Allahu entend celui qui le loue, Sami'a Allahu liman hamidah, dites alors, ô Allah notre Seigneur, et à toi appartient la louange, c'est-à-dire dites Rabbana wa lak alhamd. Dites Rabbana wa lak alhamd. Allah vous entendra, car en effet, Allah, béni et exalté soit-il, a dit à travers la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah entend celui qui le loue. Allah entend celui qui le loue. Ici, il y a une petite parenthèse très importante. Cheikh Al-Albani a dit, ce hadith ne prouve pas que ceux qui suivent l'imam, ce hadith ne prouve pas que celui qui prouve, que ceux qui suivent l'imam ne doivent pas dire avec lui Sami'a Allahu liman hamidah. De la même façon qu'il n'est pas prouvé non plus que l'imam ne peut pas dire Rabbana wa lak alhamd. Naam. Avec ceux qui le suivent dans la prière. Le but du hadith n'est pas d'expliquer ce que l'imam et ses suiveurs doivent dire dans ce pilier, mais plutôt d'expliquer que le tahmid, c'est-à-dire Rabbana wa lak alhamd, des suiveurs doit se faire après le tasmi' de l'imam, après Sami'a Allahu liman hamidah. Pour que vous compreniez bien. Ça veut dire ici, ça veut dire que quand on est derrière un imam, s'il dit Sami'a Allahu liman hamidah, nous qu'est-ce qu'on dit? On dit comme lui, on dit Sami'a Allahu liman hamidah et Rabbana wa lak alhamd. Et l'imam, quand il dit lui, il se lève, il dit Sami'a Allahu liman hamidah, il dit aussi Rabbana wa lak alhamd. Donc je répète, si on fait la salat derrière un imam, le imam, quand il lève sa tête, il doit dire Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lak alhamd. Les deux. Et nous qui sommes derrière lui, nous devons le suivre. On dit Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lak alhamd. Et si quelqu'un fait la prière seul, qu'il soit un homme ou une femme. Non, si quelqu'un fait la prière seul, qu'il soit un homme ou une femme, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lak alhamd. La même chose. C'est-à-dire, quand on fait la prière seule, on dit Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lak alhamd. Naam. Dans un hadith, il a dit فإنه من وفق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Il a dit aussi, celui dont la parole coïncide avec celle des anges font la prière avec nous, ils disent la même chose. Si notre parole coïncide avec celle des anges, alors on a tous les péchés passés pardonnés. Non, juste pour avoir fait coïncider nos paroles avec leurs paroles. Tout en étant debout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant debout, qu'est-ce qu'il disait? Donc, des fois, il disait Rabbana wa lakal hamd, comme c'est cité ici, Rabbana wa lakal hamd. Et des fois, il disait Rabbana lakal hamd, c'est tout. Sans le wa. Rabbana lakal hamd. Et des fois, il disait Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Et des fois, il disait Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Naam. Je répète, donc des fois il disait Rabbana wa lakal hamd, et des fois il disait Rabbana lakal hamd sans le wa, sans le wa, Rabbana wa lakal hamd ou bien Rabbana lakal hamd après avoir dit Sami'a Allahu liman hamida. Mais des fois il ajoute Allahumma, Allahumma Rabbana wa lakal hamd ou bien Allahumma Rabbana lakal hamd. نعم طيب il a ordonné de faire ceci en disant quand l'imam dit Allah entend celui qui le loue, dites alors ô Allah notre Seigneur, à toi appartient la louange, car celui dont la parole coïncide avec celle des anges aura ses péchés pardonnés. 458 hadith Bukhari Muslim. Parfois il y ajoutait également, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoutait aussi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd. C'est-à-dire des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit sami'a Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd ou bien rabbana lakal hamd ou bien allahumma rabbana lakal hamd ou bien Allahumma Rabbana wa lakal hamd, il continue d'ajouter mil as-samawati wa mil al-ard wa mil amash ma shi'ta min shay'in ba'd. Naam, tout ça en étant debout. Des fois il disait mil as-samawati wa mil al-ard wa ma baynahuma, il ajoutait wa ma baynahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd, mil as-samawati wa mil al-ard wa ma baynahuma وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. Des fois il disait أهل الثناء والمجد, il ajoutait أهل الثناء والمجد, لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. C'est-à-dire Seigneur de la gloire et de la majesté, personne ne peut retenir ce que tu accordes et personne ne peut accorder ce que tu retiens, et les biens d'un possesseur ne peuvent lui profiter que par toi. Hein? Et des fois il disait, il ajoutait, après avoir dit Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, des fois il disait mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama baynahuma, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma baynahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du ahl al-thana'i wal-majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Tout cela il le disait avant de se prosterner, subhanallah, tout en étant debout. Regardez que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment nous on va très vite, on dit seulement Sami'a Allahu liman hamidah, on descend. Sami'a Allahu liman hamidah, on descend. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Sami'a Allahu liman hamidah, مل ربنا ولك الحمد مل السماوات ومل الأرض ومل ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله العظيم. Et des fois il disait, des fois il disait ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. Des fois qu'est-ce qu'il disait? سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. Donc tout cela, ce sont des adhiyas, ce sont des adhiyas, yani que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le recours, c'est-à-dire, pardon, disait après avoir fait le recours. Donc, avant de passer au prolongement de la position debout, au prolongement de la position debout et de l'obligation d'y être à l'aise, je voudrais seulement je voudrais répéter, car c'est très important, je voudrais répéter l'intérêt que j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est que quand on dit Sami' Allahu liman hamida, on ne s'arrête pas là. On dit Sami' Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Quand on est seul, on dit Sami' Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Ou bien Rabbana lakal hamd directement. Ou bien Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Ou bien Allahumma Rabbana lakal hamd. On dit les deux. Sami' Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Maintenant, quand on est imam, on dit aussi les deux. Quand on est imam, on dit Sami' Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Et quand on est derrière l'imam, on dit la même chose. Quand lui il dit Sami' Allahu liman hamida, il se lève. Nous on dit Sami' Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Naam. طيب, maintenant, quand on se relève et on dit ces doigts que je viens de dire, il est obligé qu'on fasse ce qu'on appelle l'itmi'nan. On doit rester comme ça debout à l'aise. Naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه. Il a dit puis relève ta tête jusqu'à ce que tu sois droit et que chaque os ait repris sa place. Relève ta tête jusqu'à ce que tu sois droit et que chaque os ait repris sa place. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait cette position debout, il l'a prolongée presque autant que son recours. Naam. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait un recours, il le faisait long. Mais quand il disait Sami' Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, il prolongeait aussi, il prolongeait. Au moins, on attend que les os reviennent à leur place. C'est pour ça que des fois, il prolongeait tellement, quand il restait debout, il le prolongeait tellement que certains compagnons pensaient qu'il l'a oublié. Certains compagnons pensaient qu'il l'a oublié. Pourquoi? Parce qu'il reste beaucoup debout. Naam. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu relèves ta tête, quand tu te relèves, redresse ton épine dorsale et relève ta tête jusqu'à ce que les os retournent à leurs articulations. Naam. Relève ta tête et redresse ton dos, redresse ton épine dorsale et relève la tête jusqu'à ce que les os retournent à leurs articulations. Ma facile. C'est-à-dire qu'il est interdit, que lorsqu'on dit Sami' Allahu liman hamida, on descend directement. On dit Sami' Allahu liman hamida et on attend. Rabbana wa lakal hamd, et on attend que les os rentrent. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Il faisait des doigts hein, pour attendre. Des fois, on est pressé. On n'a rien à dire, on veut descendre. Mais si on a quelque chose à dire, on doit yani, attendre qu'on finisse. Sami' Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban, par exemple, mubarakan fi, ou Rabbana wa lakal hamd, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama. بينهما ومن اما شئت من شيء بعد اي كوم سا دعاء لون juste pour يعني c'est quoi la sagesse en même temps premièrement faire des invocations avoir des hasanat mashallah et deuxièmement attendre que les eaux reviennent à leur place ici il y a une comment dirais-je il y a une parenthèse de Cheikh Al-Albani Larmou. Une parenthèse, masha'Allah, que dit ici Cheikh Lahirmo? Il dit, Tayyib Hajar fait saut. طيب j'aurais dû enlever la parole. طيب Abdillah, barakallahu fik. Awalan, salam alaykoum. Deuxièmement, suis-moi avec le numéro 1, juste pour le son, pour savoir à chaque fois qu'il y a le son. طيب, ici, Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, a dit la signification. Alaykoum salam. La signification du hadith est claire et évidente. Être à l'aise dans cette position. Être à l'aise quand tu dis Sami Allah liman hamida, Rabbana wa lak alhamd, tu dois être à l'aise. Il faut faire l'itmi'nan, tuma'nina. Il faut faire tuma'nina. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui allait vite, refais ta salat trois fois. Trois fois il lui a dit refais ta salat. Donc on doit faire, yani on doit être à l'aise. Il a dit quant à l'usage, Cheikh Al-Albani al-Ahmoud dit, quant à l'usage de ce hadith par nos frères du Hijaz et ailleurs, comme preuve pour justifier le fait de poser les mains droites sur la main gauche dans cette position, parce que les ulama, certains ulama du Hijaz, alayhim rahmatullah, comme Cheikh Ibn Baz, Allah yarhamou, a dit que quand on dit Sami Allahu liman hamida, on met la main droite sur la main gauche et on attend. Et on dit Rabbana wa lak alhamd hamd kathiran, c'est-à-dire que Cheikh Ibn Baz, Allah yarhamou, voyait que quand on disait Sami Allahu liman hamida, on mettait la main droite sur la main gauche. Cheikh Al-Albani ici dit, alors que ceux qui voyaient comme une preuve pour justifier le fait de poser la main droite sur la main gauche dans cette position, il a dit, elle est loin de la multitude des récits concernant ce hadith, connu chez les fuqaha par le hadith de celui qui ne priait pas correctement, etc. En réalité, cette argumentation est fausse, puisqu'il n'est fait aucune référence du placement mentionné dans la première position debout, dans aucune des narrations ou versions du hadith. Comment donc justifier cette interprétation de les eaux reprennent leur place initiale mentionnée dans le hadith, etc. etc. à la fin, il a dit c'est une bid'a, etc. Le Cheikh Al-Albani al-Rahmou a dit que quand on dit Sami Allahu liman hamida, on laisse les mains tendues, c'est-à-dire qui descendent à droite et à gauche de notre corps. Et on ne met pas la main droite sur la main gauche quand on dit Sami Allahu liman hamida. Il a dit on fait descendre les mains. Il s'est basé sur deux choses. La première des choses, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et relève-toi, relève ta tête et redresse-toi jusqu'à ce que les os reviennent dans leurs articulations. Alors toi, remarque si tu veux bien comprendre ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, dis fais un recours, fais le recours, ensuite dis Sami Allahu liman hamida et mets la main droite sur la main gauche et dis Rabbana wa lak alhamd hamdan kathiran tayyiban et compare cette position avec la deuxième position. Fais le recours, dis Sami Allahu liman hamida et mets tes mains à droite et à gauche de tes cuisses. À droite et à gauche, ne mets pas la main droite sur la main gauche et dis-moi dans laquelle des deux positions as-tu senti que tes os sont revenus à leur place? Naam. Quand tu dis Sami Allahu liman hamida, en laissant la main droite sur la main gauche, les os des épaules ne sont pas revenus à leur place. Les os sont étirés. Ils sont sortis de leur place car tu as la main droite sur la main gauche. Descends la main droite sur la main gauche, descends tes deux mains, tu verras que les os vont redescendre et rentrer dans les articulations des épaules. Ça, c'est le premier hadith dont s'est basé Cheikh Al-Albani al-Rahmou pour dire qu'on ne peut pas mettre la main droite sur la main gauche quand on dit Sami Allahu liman hamida. La deuxième chose dans laquelle il s'est basé, je ne sais pas si elle est là ou je l'ai entendu dans un hadith, hein? La deuxième chose sur laquelle on peut se baser, maintenant si c'est pas lui qui a dit ça, je ne sais pas, Allahu alam, mais le deuxième délit, c'est quoi? Regardez, tous ceux qui ont rapporté la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien qu'ils sont, peut-être des centaines, aucun d'eux n'a jamais dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Sami Allahu liman hamida, qu'il avait mis la main droite sur la main gauche. Alors que la salat, c'est la chose la plus importante dans le din et la plus importante aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les actions. C'est la chose la plus importante. Comment se fait-il que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui yani, ont compté les cheveux de sa tête, combien qu'il y avait de cheveux blancs. Ils ont compté une vingtaine à peu près. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait Sami Allah li Muhammadin, il mettait la main droite sur la main gauche. C'est vraiment étonnant. Naam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont parlé de détails dans toutes les choses, qui ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les choses, comment qu'il marchait, comment qu'il s'assoyait, comment qu'il regardait, comment qu'il rentrait dans les toilettes, avec quel pied il rentrait, et qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur, yani avec les détails, les toilettes, et ils ont rapporté tout ça avec les détails. Comment se fait-il qu'ils ne rapportent pas dans la salat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettez la main droite sur la main gauche quand il disait Sami Allahu liman hamida. C'est pour ça que l'avis le plus sûr, inshallah ta'ala, c'est que quand on dit Sami Allahu liman hamida, on ne met pas la main droite sur la main gauche. Naam. Et celui qui a dit il met la main droite sur la main gauche, c'est bien sûr un grand alim, Ibn Baz, c'est un ijtihad que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des récompenses pour avoir fait cet ijtihad. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? La prière de personne d'entre les gens n'est complète s'il ne faisait pas cela. C'est-à-dire, si quelqu'un se relève du rukou' et il n'attend pas que les os reviennent à leur place, il veut descendre directement, il veut joindre entre le rukou' et le sujoud directement, il ne veut pas rester un peu juste que les eaux rentrent, il a dit sa salat n'est pas complète. Et quand on dit à quelqu'un ça, ta salat n'est pas complète, Ibn Hazm a dit donc, une chose qui n'est pas complète, c'est qu'elle ne vaut rien. Elle n'est pas complète. Non, il faut que ma salat soit complète. Maintenant, elle n'est pas complète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le puissant, le sublime, ne regarde pas. Regardez, c'est très grave. Allah ta'ala, le puissant, le sublime, ne regarde pas la prière du serviteur qui ne redresse pas sa colonne vertébrale entre son inclinaison recours et sa prosternation sujoud. Allahu Akbar, 468. Ahmed Tabarani, Mujam Kabir, avec Sanad Sahih. Ça veut dire que quelqu'un qui ne redresse pas sa colonne vertébrale et qui veut descendre directement, il dit Sami Allahu liman hamida, il descend. Il ne veut pas attendre que les os reviennent à leur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de quoi? En train de perdre ton temps. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal ne regarde pas ta salat. Non, il ne te regarde pas. Donc, tu fais cette salat pour qui? Allah Ta'ala ne veut pas regarder cette salat. Subhanallah al-Azim. C'est comme si, je ne sais pas moi, quelqu'un me dit par exemple, lis-moi le Coran, je donne un exemple, lis-moi le Coran, je prends le livre, je commence à lire, il part et il me laisse, il claque la porte, il sort, c'est toi qui m'as dit, lis. Certes, je lis c'est pour Allah, etc., mais j'ai lu pour toi, pour te faire entendre, il a claqué la porte, il est parti. Là, c'est un exemple, il est très simple, il a le mathal ala. Maintenant toi, tu fais la salat pour Allah, Allah Ta'ala ne veut plus regarder ni toi ni ta salat. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas attendre que les autres reviennent à leur place. Remarquez, barakallahu fikoum, combien de gens, je vais dire des millions, il y a des millions de musulmans qui ne font pas la vraie salat. Non, il y a des millions de musulmans, je dis des millions, pas des milliers, qui n'ont pas une salat complète. Alors si vous voyez les musulmans du Pakistan, de l'Afghanistan, du Soudan, du yani hado qui sont loin de la sunna, ah cela, c'est pas la peine d'en parler. Mais je parle yani, où on entend les cassettes, etc., on entend les doros, et beaucoup ne font pas la prière comme la faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le sujoud, c'est la prosternation. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le takbir, disait Allahu Akbar, et se baisser pour accomplir la sajda. il recommanda à celui qui faisait la salat incorrecte de faire ainsi. Il lui a dit, la prière de personne d'entre les gens n'est complète que jusqu'à ce qu'ils disent Allahu Akbar. Allah entend celui qui le loue, Sami'a Allah liman hamida, se relève et dise Allahu Akbar, puis se prosterne de sorte que ses articulations soient détendues. Naam, regardez, la vraie sunna c'est quoi? Tu dis Allahu Akbar et tu descends. Certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent pas Allahu Akbar jusqu'à lorsqu'ils vont arriver en bas. Quand il reste un peu pour que sa tête touche le sol, il dit Allahu Akbar. Et certains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, du moment où il s'apprête à descendre, il dit Allah, et il est en train de descendre. Allah, et quand il touche en bas, à moitié chemin, il dit Akbar, jusqu'à ce qu'il descende en bas. Tu lui dis pourquoi? Il te dit pour ne pas laisser de vide. Pour, si je dis oh, Allahu Akbar, ensuite je descends, j'ai laissé tout ça vide sans rien dire. On lui dit miskin, comme tu es miskin toi. Tu es un vrai miskin toi. Tu veux, yani, tirer des choses de ta tête et tu veux faire des analogies, des pièces et des choses comme ça. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a bien montré comment il a fait la salat. Il a dit le mot puis. Il a dit le mot puis. Regardez. Se relève et disent Allahu Akbar, puis se prosterne, puis, donc Allahu Akbar, ensuite tu te prosternes. C'est pas tu te prosternes en disant Allahu Akbar. On dit beaucoup d'imams, Allahu Akbar. Yani du haut jusqu'en bas. Ça c'est faux. Et d'autres, ils ne disent pas Allahu Akbar quand ils vont descendre. Ils descendent sans que tu saches. Quand il arrive en bas, il va toucher le sol, il dit Allahu Akbar. Tout ça sont bien sûr loin de la sunna. Aussi, lorsqu'il voulait accomplir la sijda, il disait le takbir, écartant ses mains de chaque côté, puis se prosterner. Il disait le takbir, Allahu Akbar, en levant les mains, en les écartant, soit devant les oreilles, soit devant les épaules, comme on l'a vu plusieurs fois. Il disait Allahu Akbar, puis se prosterner. Naam. Parfois, il levait ses mains au moment où il se prosternait. Naam. Parfois, il levait ses mains au moment où il se prosternait. Naam. D'ailleurs, maintenant, de la descente pour la prosternation sur les deux mains. Maintenant, on va descendre pour se prosterner. Comment qu'on va faire? Est-ce qu'on va descendre sur les deux mains, ou là on va descendre d'abord avec les genoux? On va commencer par les genoux et descendre avec les genoux, ou là on va descendre par les deux mains. Je noterai ici que quand j'ai dit il levait ses mains au moment où il se prosternait, il levait ses mains au moment où il se prosternait, parfois ça s'est rapporté par beaucoup de sahaba qui faisaient cela, radiyallahu ta'ala anhum, Ibn Omar, Ibn Abbas, et aussi Hassan al-Basri, qui sont des tabi'in, Taous et son fils Abdullah, Nafi', l'esclave d'Ibn Omar, Salim, le fils d'Ibn Omar, Qasim ibn Muhammad, Abdullah ibn Dinar, Ata, tout cela, quand ils voulaient descendre pour la prosternation, ils levaient encore la main. Vous savez que il y a trois endroits où on lève les mains, Inch'Allah ta'ala, sans yani à l'unanimité. Quand on dit Allahu Akbar pour commencer la salat, on lève les mains. Ensuite on dit Allahu Akbar pour descendre, s'incliner, on lève les mains. Ensuite on dit Sami Allah liman hamidah, on lève les mains. Ça, les trois ados, il y a pas, inshallah ta'ala, il y a l'unanimité. Non, au moins des trois grands ulama. Maintenant, même pour descendre, après avoir dit Sami Allah liman hamidah, Rabbana wa hamd, matalan, et je vais descendre, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait encore les mains, c'est-à-dire pour la quatrième fois. Il lève les mains et il descend se prosterner. C'est une sunna, n'oubliez pas de la faire de temps en temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait ses mains au sol avant ses genoux. Posait ses mains au sol avant ses genoux. Ibn Khuzaymah Daraqutni al-Hakim a dit sahih, Dahabi l'a confirmé. Naam. Cheikh al-Albani dit, tous les hadiths qui contredisent celui-ci sont inauthentiques. Cheikh al-Albani dit, tous les hadiths qui disent que en descend sur les genoux avant les mains ne sont pas vrais, ne sont pas authentiques. C'est-à-dire que la vraie sunna, on doit commencer par les mains. On jette les mains d'abord et ce n'est pas on descend avec les genoux. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand l'un d'entre vous se prosterne, qu'il ne s'agenouille pas comme le chameau, mais qu'il place ses mains avant ses genoux. Subhanallah al-Azim. Qu'il ne s'agenouille pas comme le chameau, mais qu'il place ses mains avant ses genoux. Hadith en sahih. Quand l'un d'entre vous se prosterne, qu'il ne s'agenouille pas comme le chameau, mais qu'il place ses mains avant ses genoux. Cheikh Al-Albani a dit, il faudrait savoir que la manière de se différencier du chameau est de poser les mains avant les genoux. Le prophète Al-Sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on doit se différencier du chameau. On ne doit pas faire comme le chameau. Naam. Donc, on doit se différencier de lui. Alors le chameau, qu'est-ce qu'il fait? Le chameau, pour le différencier, on doit poser les mains avant les genoux. Car le chameau pose d'abord ses genoux. Le chameau commence par ses genoux. Étant donné que les genoux du chameau sont dans ses pattes antérieures. Où se trouvent les genoux du chameau? Ils se trouvent dans ses pattes antérieures, comme défini dans l'Isan l'Arabe et d'autres livres de langue arabe. Naam. Donc, yani, la sunna c'est quoi? C'est de descendre d'abord avec quoi? Avec les mains, ensuite les genoux. On ne fait pas comme le chameau. Et le chameau, il faut le voir devant toi, comment qu'il descend, premièrement. Et deuxièmement, il faut que tu saches que le chameau a quoi? Étant donné que ses genoux sont dans les pattes antérieures. Naam, si tu ne sais pas que ses genoux, les genoux du chameau, sont dans ses pattes antérieures, tu vas croire qu'il est en train de descendre avec ses mains. Tu dis alors, moi je vais le différencier, je vais descendre avec les genoux. Alors que ce n'est pas vrai. Ses genoux se trouvent dans ses pattes antérieures. C'est pour ça que lui, il commence avec les genoux. Naam. Et nous, on différencie, on descend avec nos mains. On ne descend pas avec les genoux. Il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, certainement les mains se prosternent comme le visage se prosterne. Donc quand l'un d'entre vous pose son visage sur le sol, qu'il pose ses mains, et quand il relève son visage, qu'il relève aussi ses mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se supporter avec la paume de ses mains, les paumes, quand il faisait sujoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se supportait, hein, il avait le poids sur les paumes de ses mains, et il écartait les paumes, et joignait ses doigts, et les pointait en direction de la Qibla. Aussi, il plaçait ses paumes au niveau des épaules et parfois au niveau des oreilles, il appuyait son nez et son front fermement sur le sol. Il a dit à celui qui a fait la prière incorrecte, il lui a dit, quand tu te prosternes, alors sois ferme dans ta prosternation. Dans un autre hadith, quand tu te prosternes, pose ton visage et tes mains fermement jusqu'à ce que tes os soient détendus et retournent à leur place initiale. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de prière pour celui qui ne sent pas le sol sous son nez, comme il le sent sous son front. Naam. Je reviens un peu à l'arrière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit donc, quand on pose nos mains aussi font le sujoud comme le visage fait le sujoud. Naam. Il a dit, quand tu te prosternes, pose ton visage et tes mains fermement. Naam. C'est pas certaines personnes ne posent même pas les mains, presque ne les posent pas, à peine s'ils touchent le sol avec les mains, à peine comme ça avec les doigts. J'en ai vu de mes yeux plusieurs. Naam. Ils posent quoi? Seulement ses doigts. Ils posent pas les paumes sur le sol. Subhanallah. Donc il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur le front, c'est tout. L'essentiel, il a posé son front, maintenant les mains qu'il dépose ou ne dépose pas, ça ne lui dit rien. Alors il laisse seulement comme ça certains doigts toucher le sol. Alors qu'il devait quoi? Il devait poser les paumes. Les paumes, ce n'est pas les doigts. C'est les paumes qu'on doit les poser. Ensuite, il a dit, il les écartait. Hein, on ne colle pas nos paumes avec notre visage. On les écarte et on laisse les doigts joignés. On doit joindre les doigts. Les doigts, on les joint. On écarte les mains, on écarte les bras et les mains, et les doigts doivent être fermés, pas ouverts. Les doigts ouverts, pardon, fermés en face de la Qibla. Les doigts en face de la Qibla. Et même Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu faisait de sorte que même le pouce, il essayait de le mettre en face de la Qibla. Parce que quand on a les doigts joints, fermés, donc le pouce, il est aussi fermé, il touche à l'index. Donc le pouce, j'essaie de le mettre aussi en face de la Qibla. Je ne laisse pas mon pouce aller à droite et à gauche. Non. Mes deux pouces ne doivent pas être opposés l'un à l'autre. Non. Les deux, j'essaie de les faire coller avec l'index, chacun avec son index, pour que mes pouces soient dirigés vers la Qibla. Il plaçait des paumes au niveau de ses épaules et parfois au niveau de ses oreilles. Il appuyait son nez et son front fermement sur le sol. De toute façon, personne ne peut faire ce que je viens de dire ici que si, il y a une condition, que si lorsqu'il se prosterne la vraie prosternation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il se prosterne assez loin. Naam, certains font comme une tortue. La tortue qui fait sortir sa tête juste quelques centimètres. Sa tête ne peut pas aller plus loin. Certains, qu'est-ce qu'ils font? Quand il fait la prosternation, il la fait là, devant ses pieds, subhanallah. Au lieu d'aller là-bas, au lieu d'allonger son buste vers l'avant et d'écarter ses mains, de poser ses mains fermement, de façon à ce qu'il sorte, qu'il sente, de façon à ce qu'il sente le poids, yani, qu'il a, mashallah, sur les paumes. Naam. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent ses genoux et ils descendent avec sa tête, son corps, de façon à ce que, yani, il pose sa tête, subhanallah l'adim, devant ses genoux. Pire encore, avec ses mains, ses coudes, tellement il n'est pas loin, tellement il a collé sa tête à ses genoux, yani avec ses coudes, il touche son ventre. Pourquoi? Il a fait, yani c'est une salade de paresseux. Il ne veut pas faire un soujoud de loin, il ne veut pas aller loin, il veut juste poser sa tête là-bas. Donc celui-là, yani ses mains, il ne s'est pas appuyé sur ses mains. Car pour s'appuyer sur tes mains, tu dois aller loin. Et comment faire pour aller loin? Pour aller loin, c'est simple. Tu veux savoir si tu vas loin ou tu vas pas. C'est simple. Avant de dire Allahu Akbar, fais une année avec le mettre ruban ou là, prends quelque chose et il faut que tu mettes entre toi et la sutra 1,5 mètre. Compte 1,5 mètre entre toi et la sutra. Alors, si tu n'as pas le mètre là, tu fais avec ton pied. Hein, tu fais un écart comme ça avec ton pied. Un grand écart, c'est 1 mètre. Ensuite, un demi-écart, c'est à peu près 1,5 mètre, et tu te mets debout. Tu dis, c'est d'ici que je vais dire Allahu Akbar. Maintenant, regarde, tu es loin de la sutra à 1,5 mètre. Et maintenant, de cet endroit, je vais faire le sujoud et m'approcher de la sutra de façon à ce que je ne laisse que 2 empans. 2 empans, c'est combien? C'est peut-être 10 cm ou 15. Maximum, c'est 20 cm. Donc, ma tête, où est-ce qu'elle doit être, puisque je suis debout à 1,5 m, 1,50 m, et j'enlève les 15 cm ou les 20, j'enlève 20 cm qui doivent rester entre ma tête et la sutra, donc ma tête doit être posée à 1,30 m. 1,30 m par rapport où sont posés mes pieds. Subhanallah l'adim. Fais-le, essaye-le, tu vas voir quand tu vas te prosterner loin. Tu vas, mashallah, te prosterner loin. C'est pas comme la torture, là, je sais pas, tu vas te prosterner la tête collée à tes genoux. Non, tu vas te prosterner loin et tu vas sentir qu'il y a un poids. Il y a un poids sur tes paumes. Il y a un poids sur ton front. Non, tes genoux, pardon, tes épaules ont un poids. Tu commences même un peu à avoir un peu mal. Non, tellement ton poids est sur tes mains et sur tes épaules. Non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont dit, on va le voir. Ils ont dit, quand on le voyait faire le sujoud, des fois il nous faisait de la peine. Non, il nous faisait de la peine. Subhanallah, ils sentent qu'il fait des efforts. Ce n'est pas la salade des paresseux qui pose sa tête comme ça devant ses genoux. Il est collé à lui. Tout est collé. Sa tête, non, est collée à son cou est collé à son buste, c'est ses mains, ses coudes sont collés à ses flancs. Celui-là, c'est un hérisson. L'hérisson qui fait une boule. Il fait une boule, il se cache. Celui-là, il a fait une boule, celui-là. Il n'est pas allé se prosterner, mashallah, là-bas. Tu le vois de loin. Sa tête est là-bas et lui, il est ici. Subhanallah al-Azim. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu te prosternes, alors sois ferme dans ta prosternation. Allahu Akbar, sois ferme. Naam. Faut que tu sentes que tu t'es prosterné. Quand tu te prosternes, pose ton visage et tes mains fermement jusqu'à ce que tes os soient détendus à leur place. Naam. Tu te prosternes et tu attends jusqu'à ce que tu sentes que tes os soient rentrés dans leur place. Il n'y a pas de prière, a-t-il dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne sent pas le sol sous son nez comme il le sent sous son front. Certains gens certains gens mettent le front sur le sol et lèvent le nez. Leur nez ne touche pas le sol. Cette salat n'est pas vraie. Non, cette salat est fausse. Il faut que mon nez touche le parterre. Non, il faut que mon front et mon nez touchent le parterre. Certains font toucher le sol seulement avec le front et ils lèvent le nez. Surtout, qu'est-ce qu'ils font cela? Ceux qui, comme j'ai dit tout à l'heure, ne font pas le sujoud loin. Ils font comme l'hérisson juste ici. Donc, il pose juste sa tête. Il ne peut même pas poser son nez. Car s'il pose son nez, il doit aller un peu à l'avant. Donc celui-là, il veut juste ici devant ses pieds. Il veut faire vite. Non. Alors il pose même pas son nez. Mais si tu fais la prosternation, comme je viens de montrer tout à l'heure, tu vas à l'avant, tu es obligé de mettre ton nez. Tu es obligé, car il y a un poids sur tes épaules, tu sens que c'est lourd, il faut que tu mettes ton nez. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse ici. Pour faire la prosternation dont je viens de parler, comme j'ai dit, il faut 1m50, tu sois loin de la sutra. Donc, il n'est pas possible que quelqu'un fasse une prosternation comme je viens de parler, s'il fait une salat sur un tapis, je ne sais pas comment on appelle ça, le tapis. Vous connaissez le tapis qu'on achète partout, on achète à la Mecque, on achète le petit tapis comme ça qu'on a tous à la maison. Des fois, il y a dessus la Mecque, des fois, il y a dessus le Kaaba, des fois, tout ça. Vous connaissez le petit tapis. Celui-là, si vous voulez faire la salat sur lui, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'il fait seulement 1 mètre. Il ne fait pas plus d'un mètre ce tapis. Tapis de prière, naam. Je parle du tapis le plus connu. Hein. Peut-être qu'il doit y avoir des tapis, mashallah, qui font 2 mètres ou là. Mais le plus connu, il fait à peu près 1 mètre. 1 mètre, peut-être et quelques ou là, un peu moins. Celui-là, quand tu mets tes pieds sur le tapis, donc déjà tu as pris 5 ou là, 10 cm. Et tu vas faire la prosternation à la fin du tapis. Donc, le tout sera combien? 90 cm. Maximum 1 mètre. Alors, ta tête doit aller plus loin. Donc, si tu veux faire la prière sur le tapis, tu veux faire la prosternation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu dois faire? Tu choisis entre les deux. Ou bien, tu ne mets pas tes pieds sur le tapis. Tu mets tes pieds avant le tapis, sur le sol ou là sur autre chose. Et là, tu peux mettre ta tête à la fin du tapis. Ou bien, tu mets tes pieds sur le début du tapis et ta tête, tu la mets après le tapis. Après le tapis, tu mets autre chose. Tu mets, je ne sais pas, un vêtement ou n'importe quoi, tu le mets après le tapis, c'est pour mettre ta tête là-bas. Naam. Hadi, je parle de ça pour quelqu'un qui est de taille normale. Qu'en est-il quelqu'un, mashallah, qui fait 1m85 ou 1m90? Comment qu'il va faire sur un tapis d'1 mètre? Il ne pourra pas. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Non, ici j'ajoute autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait aussi ses genoux et ses orteils fermement. Non, les genoux et les orteils fermement. Pointant, regardez bien, pointant avec l'avant de ses orteils, et les doigts du pied. Il pointait avec les doigts du pied, c'est-à-dire l'extrémité de ses doigts, il les pointait vers la Qibla. Donc voilà la première sunna. Quand tu es prosterné, tes pieds qui sont derrière toi, les doigts, tu dois faire de sorte qu'ils ne soient pas pointés vers l'arrière. Mais tu les, hein, comment on dit en français, je ne sais pas, taqlebhom, hein, de sorte à ce qu'ils soient, ils soient du côté de la Qibla. Non, tu les renverses comme ça, afin que l'extrémité des doigts, des pieds, c'est-à-dire des orteils, soit vers la Qibla. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Quand on fait une prosternation, on est prosterné maintenant, mes doigts, les doigts de mes mains sont envers la Qibla, en face de la Qibla, les orteils de mes pieds, les doigts de mes pieds doivent aussi être en face de la Qibla. Les extrémités, comme je les plie pour de façon à ce qu'ils soient en face de la Qibla. Non, je ne les laisse pas en face, yani je ne les laisse pas, ils donnent comme ça vers l'arrière. Mais ils doivent être en face de la Qibla. Non. Autre chose, joignons ses talons, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith sahih, Tahawi ibn Khuzaymah, le hakim l'a authentifié, le hakim l'a accepté. Non. Hadith al-Dhahabi l'a accepté. Hadith sahih, il joignait ses talons. Quand on fait la prosternation, maintenant je suis prosterné. Mes pieds, les doigts des pieds doivent être vers la Qibla, masha'Allah. Mais mes pieds sont-ils ouverts ou là je joins mes talons? Je dois joindre mes talons. Mes talons doivent toucher. Non, mes talons doivent toucher. C'est pour ça que même si on est un homme, ou là, surtout si on est un homme, ou là, même une femme, ou là, quand on fait la prosternation, on laisse les pieds comme ça ouverts, hein, des fois, on se découvre. Des fois, même si c'est un homme, moi je vois dans la mosquée, même si c'est un homme, des fois, il est découvert. Pourquoi? Il faut joindre les talons. Ce n'est pas à cause de pour se cacher. Non, c'est à cause de la sunna. Mais en même temps, la sunna a ce bénéfice que, si tu l'as fait, il y a toujours quelque chose de bien. Et ici, alhamdoulilah, tu caches aussi ta aura. Tu caches aussi ta aura, de façon que si on regarde, on voit seulement les talons qui sont joints. On voit seulement les talons qui sont joints. Donc beaucoup de gens, quand ils se prosternent, ils ouvrent. Ils ouvrent les pieds, mashallah, un grand écart. Non, alors qu'il fallait joindre les talons quand on est prosterné. Et gardons ses pieds bien droits. Non, les pieds doivent être bien droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de me prosterner sur sept eaux, sur le front, et il indiqua son nez avec un signe en même temps, le front et le nez. Ça, c'est un os. Le front et le nez, c'est un seul os. Ensuite, les paumes, les deux paumes, ça fait 3. Les genoux, ça fait 5. Les genoux et les orteils. Et les pieds, les orteils, ça fait 7. Il y a des orteils à droite, des orteils à gauche. Je répète, ils sont 7. Le premier os, c'est quoi? Le front et le nez, ça fait 1. Ensuite, les deux paumes, ça fait 3. Ensuite, les genoux, ça fait 5. Ensuite, les orteils, ça fait 7. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, quand le serviteur se prosterne, 7 membres se prosternent avec lui. Quand le serviteur se prosterne, 7 membres se prosternent avec lui. Son visage, ses paumes, ses genoux et ses pieds. Il a vu, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme qui priait avec les cheveux attachés. Il a vu un homme qui priait avec les cheveux attachés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, son exemple est vraiment comme celui qui prie les mains liées derrière son dos. Non. Quand quelqu'un fait la prière avec les cheveux attachés, c'est comme si on lui a lié les mains derrière le dos et on lui a dit fais la prosternation. Alors vous savez que quoi? Vous savez que la prosternation, les mains aussi doivent se prosterner. Les mains aussi doivent se prosterner. Maintenant, si on a les mains derrière le dos, on n'aura pas fait de prosternation. La même chose pour les cheveux. Pour les cheveux, on doit quoi? Si c'est un homme, il ne doit pas attacher ses cheveux. Quand c'est le moment de la prière, il défait le nœud et laisse ses cheveux se prosterner. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceci est la selle du diable, c'est-à-dire où le diable s'assied, faisant référence au nœud dans les cheveux. Naam. Et j'ai un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam j'ai un autre hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui est sahih, qui a dit que quand quelqu'un fait la prosternation, il laisse ses cheveux descendre, se prosterner aussi, il a pour chaque cheveu 10 récompenses. Il a pour chaque cheveu qui a touché le sol, il a 10 récompenses. Naam. D'ailleurs, même Cheikh Al-Albani rahmou, je lis ici, il a dit, la signification de ce hadith est que quand il a les cheveux lâchés, il tombe à terre lors de la prosternation. Alors l'homme aura la récompense de la prosternation par la prosternation de ses cheveux. Cependant, si ses cheveux sont attachés, il est en effet comme celui qui ne s'est pas prosterné. Car il le comparera à quelqu'un qui a les mains liées. Parce que ainsi, elles ne peuvent pas être posées lors de la prosternation. Naam. Et j'ai ajouté le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit quoi? D'Abdullah ibn Mas'ud qui dit que chaque cheveu qui touche le sol, tu as 10 récompenses pour chaque cheveu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou là il est dit de lui, il ne posait pas ses avant-bras par terre. Il les levait du sol. Certaines personnes, quand elles font le soujoud, elles posent les avant-bras. Poser les avant-bras, c'est faire comme le chien. Le chien, quand il s'assoit, il pose les avant-bras. Et ça, c'est interdit de le faire. C'est interdit de le faire dans la salat. On venait de voir que on doit faire la prosternation sur les paumes, pas sur les avant-bras. Je viens de dire, on doit aller loin avec notre tête, à l'avant. Pour aller à l'avant, il ne faut pas que je touche avec le sol mes avant-bras. Si je touche mes avant-bras, je suis obligé de rester à l'arrière. Et je suis obligé de toucher avec mon ventre les coudes. Naam. Les coudes vont toucher mon ventre. Mais maintenant, j'ai levé mes avant-bras. Ce sont seulement mes paumes qui touchent le sol. Premièrement, il ne posait pas ses avant-bras. Deuxièmement, il les levait du sol et les gardait éloignés de ses côtés. De telle manière à ce que la blancheur de ses aisselles s'aperçoive de derrière. Et aussi, de façon que si un petit agneau voulait passer sous ses bras, il aurait été capable de le faire. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça que les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous nous sentions peinés pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en raison de l'éloignement de ses mains, de ses côtes, lorsqu'il se prosternait. Subhanallah al-Azim. On avait de la peine pour lui. Lorsqu'on voyait le prophète, on le voyait prosterné. Naam. Tellement il éloignait ses mains de ses côtes. Naam. Ce n'est pas comme ceux qui vont toucher leurs côtes avec les coudes. Non. Il éloigne tellement les mains. Subhanallah al-Azim. Regardez ici, lisez avec moi. Il les levait du sol. Il les gardait éloignés de ses côtés. De telle manière à ce que la blancheur de ses aisselles s'aperçoive de derrière. Et aussi de manière que si un petit agneau voulait passer sous ses bras, il aurait été capable de le faire. Regarde mon frère et ma soeur. Quand tu fais la prosternation et tu lèves, masha'Allah, tu lèves tes avant-bras, dis-toi dans ta tête, est-ce que si un petit agneau voulait passer, il aurait pu passer? Dis-toi. Et si un petit chat, qui est très lagneau, c'est beaucoup. Un petit chat veut passer comme ça. Alors je suis prosterné, je lève mes mains et je lève yani, mes mains avec mes avant-bras et yani, mes aisselles. Je lève comme ça. Est-ce qu'un petit chat pourrait passer? Il y a certaines personnes qui, comme j'ai dit, se collent à eux-mêmes. C'est pas un petit chat ne peut pas passer. Une fourmi, elle ne peut pas passer. Une fourmi, elle ne trouvera pas par où passer. Il est collé à lui-même. Collé avec les avant-bras, collé avec les côtes. Si une fourmi veut passer, elle ne peut pas. Alors que dans la sunna, un animal, subhanallah, un petit animal, si tu as fait une bonne prosternation, il pourrait passer en dessous de toi. Subhanallah al-Azim. Et regardez quand les compagnons ont dit, ils levaient, ils les gardaient tellement éloignés qu'on avait de la peine pour lui. La peine, ça veut dire qu'il sentait qu'il faisait des efforts, subhanallah al-Azim. Pour faire cette prosternation, il te faut des efforts, subhanallah. Tu sens quelque chose, tu sens un poids, tu sens que tu as fait des efforts. Certains, quand ils font la prosternation, ils dorment. Ils dorment, classe. Il faut le réveiller, Adam. Non, il faut le réveiller, subhanallah al-Azim. Et regardez, ce qui m'a plu aussi dans ce hadith, et c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont dit, de telle manière à ce que la blancheur de ses aisselles s'aperçoive de derrière. La blancheur de ses aisselles. Remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de saleté sous ses aisselles. Subhanallah. Les sahaba remarquent tout. S'ils avaient vu des poils, ils auraient dit, au point où on avait vu les poils noirs de ses aisselles. Comme ils ont compté combien qu'il avait de cheveux blancs dans sa tête et sa barbe. Donc ici, ils ont dit la blancheur. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est pas le plus propre, yani, c'est alors avec tous les prophètes, les plus propres des créatures, les plus propres des êtres humains. Naam, sallallahu alayhi wa sallam. Surtout que tout le monde sait que il est interdit de laisser des poils sous les aisselles et dans les parties intimes plus de 40 jours. Alors, autrefois, ils n'avaient yani, peut-être ni rasoir, ni ceci, ni cela, et ils avaient quoi? Ils avaient l'amour d'Allah et l'amour d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire comme lui. Maintenant, tu as le rasoir et tu as des choses électriques qui, je jure par Allah, que ça ne prend pas plus d'un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est beaucoup. 10 minutes avec des trucs électriques, des rasoirs électriques, des milliers de choses que peut-être moi, je n'ai rien vu moi. 10 minutes, tu as tout enlevé. Mais c'est la foi qui est faible. Ça te paraît très très difficile. C'est une montagne que je dois soulever. Alors que les aisselles, ça ne prend pas 30 secondes pour l'aisselle droite, 30 secondes pour l'aisselle gauche avec le rasoir électrique. C'est terminé. Pour les parties intimes, ça ne prend pas plus de 5 minutes maximum. Mais les gens, yani, leur foi est vraiment faible. Plus la foi est faible, plus ça te paraît que quoi, que tu vas soulever des montagnes. Et plus la foi, et mashallah, dans le cœur, plus tu voudrais yani, faire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime et t'éloigner des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Je m'arrête ici, inshallah ta'ala. Je vous donne l'occasion de poser vos questions. On se rencontre dans 5 minutes, inshallah ta'ala. Omhajar prépare le Coran, inshallah ta'ala. Subhanakillahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Omhajar, si tu es prête, écris-moi numéro 1 pour te donner le micro. Le Coran de tout à l'heure, le Coran. Le temps que je reviens dans 5 minutes. Tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, haqqa hamdihu, salatu wa salam ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui ont des questions yani, hors sujet, pour ceux qui ont des questions hors sujet, ils peuvent les envoyer aux sœurs qui n'ont pas de pain rouge jusqu'à ce qu'on arrive à leur tour, inshallah ta'ala. Naam. Nahim, naf, tafadhal. Nahim, naf, tafadhal. Ceux qui ont des questions qui n'ont pas rapport avec le sujet, qu'ils l'envoient à ceux qui n'ont pas les points rouges. Et qu'ils attendent, yani, jusqu'à ce qu'on arrive, yani, qu'on finisse avec ceux qui ont rapport avec le DAS. طيب فيه صوت فيه صوت اسكو فيه صوت الحمد لله الحمد لله طيب peut-être que Nahim n'est pas avec nous. Nahim, si tu es là, écris numéro 1 au moins pour que je sache que tu es là. Écris numéro 1, Nahim. Ah, barakallahu fik, الحمد لله. Donc maintenant on peut patienter et attendre que inshallah ta'ala tu coupes ta question, car elle doit être assez longue. Wallahu ta'ala a'lam. Pour ne pas perdre de temps, Om Abdillah, c'était quoi ta question? Om Abdillah, ta question, Inch'Allah. Pas sur le cours, pas sur le cours. Alors attends, Inch'Allah, laisse après. Salam alaikum, c'est une question en rapport à la sutra. Dans notre ville, en France, il y a beaucoup de fitna avec les pères dans la mosquée. Les frères se mettent au premier rang, et après le adhan, ils s'avancent face au mur, utilisés comme sutra pour faire rak'atan. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que l'on s'avance face au mur. Ils disent que c'est un manque de respect vis-à-vis d'eux. Les pères nous interdisent donc de prier face au mur. Donc face à la sutra, que pouvons-nous faire, barakallahu fikoum? Franchement, j'essaie de concevoir ce que tu viens de raconter, ça ne m'est pas encore bien rentré dans la tête. Les frères se mettent au premier rang, sah, et après le adhan, ils s'avancent face au mur, utilisé comme sutra, pour faire la karaté. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que l'on s'avance face au mur. Ils disent que c'est un manque de respect vis-à-vis d'eux. C'est comment le manque de respect? Quand on s'avance, yani, où est le manque de respect? Nahim, comment c'est le manque de respect? Yani, on leur donne le dos? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'on leur donne le dos? Parce que quand on s'avance, où est le manque de respect quand je suis... Franchement, je sais pas. Subhanallah al-Azim. Franchement, je sais pas. Naam. Subhanallah al-Azim. Ceux-là, ils veulent la fitna, Allah. Naam. Ils veulent la fitna. De toute façon, c'est ce qu'ils vous disent. Naam. De toute façon, si la sutra n'est pas assez loin, si la sutra, yani, n'est pas très très loin, s'il y a entre vous, par exemple, entre vous et elle, 1,5 mètre, 2 mètres moins quelque chose, 1,75 m, 1,80 m, disons jusqu'à 2 mètres. Jusqu'à 2 mètres, mashallah, c'est pas la peine d'avancer. Non, jusqu'à 2 mètres, c'est pas la peine d'avancer. Surtout que, il n'y a personne qui va passer. Surtout que, il n'y a personne qui va passer entre toi et le mur. Si ce mur se trouve à l'avant de la mosquée. Moi, je vais avancer à l'avant. Sans avancer. Je suis sûr que personne ne va passer. Si le mur ne se trouve pas très loin de moi, à peu près 2 mètres, naam, c'est pas la peine d'avancer pour éloigner ces fitnas. Pour éloigner ces fitnas, car l'essentiel c'est quoi de la sutra? C'est que pour que personne ne passe, inshallah ta'ala, pour que personne ne passe. Et la sunna c'est d'être à 1m50, 1m50 de loin. Donc, essayez, inshallah ta'ala, de faire le maximum pour yani, ne pas faire fuir les gens. En même temps, nous pour appliquer la sunna yani, avec sagesse, avec hikma et sagesse. Naam, avec hikma et sagesse. Je vois comment je trouve une solution pour yani, faire la prière correctement sans essayer de faire des fitna. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أبو نوفل تفضل فيك بارك الله دهيم فيك بارك الله أبقي أبو نوفل أبقي أبو نوفل إليا واسمه إليا أبو عبد الله الفرنسي qui était en deuxième place qui était en troisième il était après أبو نوفل il a perdu sa place. Donc, Inch'Allah Ta'ala, Abu Nawfal, ensuite Abu Abdel Al-Firansi, ensuite Oum Youssouf. Quiconque perd sa place, il me le dit. Il m'envoie avec ceux qui n'ont pas de point rouge pour que je le mette, Inch'Allah Ta'ala, à sa place. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikoum pour et tous les autres qui sont très profitables aux frères ou ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Ensuite, un frère demande, je suis voyageur et je dois rentrer chez moi. Le billet de train le moins cher que j'ai trouvé, c'est pour vendredi. Je partirai avant la prière du vendredi et j'arriverai dans ma ville après l'heure du Jumwa. Est-ce que cela m'est permis ou bien je dois obligatoirement attendre pour faire la Jumwa? C'est permis bi-idhnillahi azza wa jal. C'est permis. Tu n'es pas obligé d'attendre la Jumwa. Non, tu n'es pas obligé d'attendre la Jumwa à condition que le adhan ne se fasse pas avec avant elle. Non, le adhan yani, ne se passe pas avant que tu ne sois au train. Et même certains ont dit, même si tu es au train et commences à faire le adhan, c'est trop tard, tu ne peux pas rater, quoi, ta jumwa, et tu feras là-bas quand tu arriveras, inshallah, tu feras salat al-dhuhr. Naam, tu feras salat al-dhuhr là-bas, à la place de la jumwa. Surtout si tu vas, yani, un peu avant. C'est-à-dire, par exemple, si c'est la jumwa à 13h, toi, par exemple, tu prends le train, à midi ou là à 11h ou là, c'est masha'Allah. De toute façon, il n'y a pas de problème. Incha'Allah ta'ala. Naam. Pas de problème. Tayyib. Abu Abdillah al-Firansi, tafadhal. Et les hadiths qui disent que la safar عند الجمعه, etc., tous ces hadiths ne sont pas authentiques. Tous les hadiths qui disent que personne ne peut voyager le jour du Jumu'ah. Il y a certains hadiths comme ça de certains compagnons. Tous ces hadiths ne sont pas véridiques. La yamna'u as-safar min al-jumu'ah. Naam. On peut voyager le vendredi, idnillah azza wa jal. Surtout si c'est un voyage, yani, quand je veux dire voyager, un voyage qui n'est pas haram. Un voyage qui n'est pas haram. Naam. Abu Abdillah, je t'ai enlevé le point rouge, tafadhal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Un peu hors sujet, puis-je la poser? Naam, attends inshallah ta'ala. Attends bi'idna azza wa jal et on va te donner inshallah ta'ala le tour pour la poser. Ou bien tu l'envoies à quelqu'un ou là tu la laisses chez toi. Tu la laisses, Inch'Allah Ta'ala, je vais pas te donner le point rouge. Comme ça, ceux qui ont des questions hors sujet et qui sont des frères, ils envoient à Abu Abdullah al-Firansi. Ils leur envoient les questions qui sont hors sujet. Naam. Pour ne pas yani lever la main. Oum Youssouf, tafadhali. Et les sœurs qui ont des choses personnelles ou là des choses hors sujet, ils envoient à Oum Abdillah et Oum Hajar. En même temps, ils peuvent envoyer Oum Hajar et Oum Abdillah, ils peuvent envoyer des questions yani, qui sont sur le sujet, au lieu de lever la main. Oum Youssouf, tafadhali. Oum Youssef, si tu es like numéro 1, pour que je sache, Inch'Allah, que tu es like numéro 1. Sinon, Fidmini, Inch'Allah ta'ala, prépare-toi. Prépare la question. T'es ok, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que Oum Youssef n'est pas là. Tafadhali. Salam alaikum salam. Peut-on prendre un hadith général pour Dalil? Si oui, pourquoi ne pas prendre le hadith de Wa'il ibn Hajj et de Sahl ibn Sa'd pour remettre les doigts, les mains sur la poitrine après le ruku? Et qu'en est-il de ceux qui disent que le rapporteur du hadith a inversé entre les mains et les genoux pour le sujoud? Barakallahu fikum. Naam. Premièrement, pour le hadith général qui dit que quand il était debout, il mettait ses mains sur sa poitrine. Naam. Cheikh Al-Albani a dit, on ne peut pas généraliser ici avec le hadith, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a posé ses mains et n'a été vu et on n'a raconté de lui que seulement sur la poitrine. Et que s'il y avait s'il avait lui, sallallahu alayhi wa sallam, posé dans une autre position, ça n'aurait jamais échappé aux compagnons qui ont raconté de lui toutes les positions, même quand il était dans les toilettes, comment qu'il faisait, avec la main gauche, etc., etc. Pas en face de la Qibla, etc. Ils ont dit, c'est impossible que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait mis la main droite sur la gauche quand il a dit, Sami Allah limin hamidah, et que aucun des compagnons qui a raconté, qui a rapporté sa façon de prier, ne l'ait noté. Ils ont dit ça, c'est impossible. Ils ont dit, quant à la généralité du hadith, on ne peut pas. On ne peut pas, pourquoi? Il a donné deux dalils. Le premier dalil, il a dit ici. La généralité, ça s'appelle hadith marsous. Naam, il y a un hadith marsous et le hadith marsous. Il a dit ici. Ils ont voulu dire que c'était après Sami Allah limin hamida. Et deuxièmement, il a donné un hadith qui m'a beaucoup convaincu et que je n'ai pas maintenant avec moi dans ma tête, où il a montré que si on devait marcher avec la généralité, on devrait aussi faire des choses fausses. Car le prophète Aslam, par exemple, a dit que je crois que Kanaïda Salla, s'il faisait la prière, il faisait telle chose. Telle chose, je l'ai oublié. C'est pour ça que je n'ai pas voulu me baser sur le hadith. Il a dit, donc, est-ce que dans le sujoud aussi, quand il est dans le sujoud, est-ce qu'il peut faire aussi telle chose, hein, de la chose que j'ai oublié? Il a dit, non, on ne peut pas dire, on va généraliser. Classe. Il a dit, c'est général. Quand il priait, il faisait cette chose. Alors, ici, il prie. Pourquoi vous ne dites pas, il va faire cette chose? Parce que ça ne s'applique pas ici. De toute façon, je te chercherai, Inch'Allah ta'ala, le hadith que j'ai oublié, qui a montré qu'on ne pouvait pas généraliser. Ensuite, avant d'oublier, je demanderai à la sœur qui m'a parlé de l'assurance de celui qu'on a renversé avec la voiture, qui est mort, l'Airmo, si elle est là pour me rappeler que je lui réponde. Et troisièmement, la sœur qui a dit que les hadiths ont été inversés, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait les genoux avant les mains et ensuite ils ont renversé le hadith, ils ont dit il mettait les mains avant les genoux. Ça c'est ce qu'a dit Ibn al-Qayyim la yahmou, et la suivi en cela Cheikh Ibn al-Uthaymin la yahmou, et ceux qui disent qu'on descend sur les genoux. Mais je vous ai donné une règle une fois, rappelez-vous, une fois je vous ai donné un frère, naam. Donc il y a un hadith général. Donc un hadith général n'est pas un dalil. Non, ici, ce hadith n'est pas un dalil. Ce hadith général ici n'est pas un hadith. Parce qu'il parlait, il voulait dire ici, après le ruku'. La position des mains après le ruku'. Attends, je suis en train de penser à une chose. Naam. Nam. Maintenant, je me rappelle, regarde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il est dans le Mawta. Il est dans le Mawta, il est aussi dans Sahih Muslim, je crois. Il a dit, Nahnu ma'ashir al-anbiya, umirna, c'est un long hadith, je donne seulement le témoin du Dars. Il a dit, an nu'ajjil al-sahur, n'am, an nu'ajjil al-fatur, nu'akhir al-sahur, wa an nadha'a, aymanana, ala shama'ilina fi salat. Voilà, maintenant, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé, je me suis rappelé le hadith. Regarde, nous, les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné bon, de faire vite, manger pendant le ramadan, ne pas faire comme les chiites qui mangent le ramadan la nuit, après l'Isha, ils mangent. Nous, on mange juste avec l'adhan du Maghrib, alhamdoulilah, et le suhur, on le tarde jusqu'à juste avant l'adhan du Fajr, et il a dit, il nous a ordonné de mettre nos mains droites sur nos mains gauches dans la salat. Regarde, ce hadith, il est général, il a dit de mettre la main droite sur la main gauche dans la salat. Et dis-moi, mon frère Fedmini, dis-moi, quand je suis prosterné et je m'assois entre les deux prosternations, suis-je dans la salat ou la suis-je hors salat? Je suis dans la salat. Alors le hadith a dit, Allah m'a ordonné de mettre ma main droite sur ma main gauche dans la salat. Donc, d'après cela, même étant prosterné entre les deux prosternations, je dois mettre ma main droite sur la main gauche. Et je suis sûr que personne n'a dit cela. Personne des ulama n'a dit cela. C'est une preuve que quoi? Que la généralité ici ne marche pas avec ce hadith. Car ils ont voulu dire qu'ils mettaient la main droite sur la main gauche après s'être levé de l'inclinaison. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Et comme je disais pour ceux qui ont dit que ils ont inversé yani, les mains avant les genoux, je vous donne la règle, c'est quoi? Et cette règle, même Ibn Baz, Allah yarhamou, le Cheikh Ibn Baz, Allah yarhamou, lui-même l'a dite. Je l'ai entendu dans une cassette, ou là je l'ai lu dans un livre, même lui-même il l'applique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand deux ulama, deux savants divergent dans un point. Il a dit, parce qu'on lui avait pris, on lui avait posé la question, les ulama maintenant divergent, celui-ci dit comme ça, l'autre dit le contraire, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, quand deux ulama divergent, vous voyez la spécialité. Si l'un des deux, c'est un spécialiste en fiqh, jurisprudence, et la question, le sujet a un rapport avec le fiqh, tu prends avec celui qui est plus connu dans le fiqh. Si c'est une question de usul fiqh, tu vois lequel des deux est comme ça. Dans la aqida, tu vois lequel des deux est plus connu, spécialité aqida. Alors ici dans les hadiths, sûrement que Cheikh Al-Albani, s'il diverge avec Cheikh Ibn Uthaymin, que Ibn Uthaymin, s'il était vivant, il te dit, Ya Khouya, ne prends pas de moi, prends de Cheikh Al-Albani quand il diverge avec moi dans le hadith. Tout le monde sait cela. Alors Al-Albani, lui-même, a dit que ceux qui disent que le hadith s'est renversé, etc., tout ça c'est faux. Ce sont eux qui ont renversé le hadith. C'est leur hadith qui sont renversés. Ce hadith est authentique. On doit descendre les mains avant les genoux. Et c'est les autres qui ont inversé le hadith, ils ont dit, on descend les genoux avant les mains. Naam. Et reviens au livre la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, tu verras avec plus de détails. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais, je vous dis là une chose, celui qui est, regardez la règle, celui qui est convaincu qu'il descend avec les genoux, qu'est-ce que vous voulez lui faire? Laissez-le descendre. Il a dit, là, moi j'ai lu chez Ibn Uthaymin, je suis convaincu, etc. Taïb, tu as lu chez Ibn Uthaymin, tu es convaincu. Tu as lu ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, tu as comparé. Compare entre les deux, ensuite, prends où ton cœur a penché. Naam. Maintenant, tu marches avec des dalils. Allah ybarak. L'essentiel ne marche pas avec tes passions. Tu as des dalils, marche avec tes dalils. Naam. Yousuf, elle s'était déconnectée. Tayyib. Où est-ce qu'elle est maintenant, Yousuf? Il faut qu'elle lève la main. Il faut qu'elle lève la main pour lui donner. Bah, Ousma. Tayyib. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, J'ai lu un hadith rapporté par le Bukhari qui disait que le prophète alayhi salam sallam détestait dormir avant la prière du Isha et de parler après. Nous les femmes avons tendance à beaucoup parler après salat al-Isha. Masha'Allah, Yusuf reconnaît, Alhamdulillah, Yusuf reconnaît que les femmes parlent beaucoup après salat al-Isha. Masha'Allah. Moi je voudrais dire une chose, même les hommes parlent beaucoup. De nos jours, même les hommes parlent beaucoup après salat al-Isha. Ma question, est-ce que l'on doit retarder au plus l'accomplissement de cette salat suite au hadith ou doit-on la faire à son heure suite aux obligations? Barakallahu fikoum. Naam. La meilleure salat, c'est de la faire à l'heure, toujours à l'heure et à son première heure. Sauf salat al-Isha, on peut la retarder s'il y a quelque chose, s'il y a par exemple un dars, ou là si je suis en train de manger, ou là si quelque chose. Naam. Hajar tout à l'heure est parti faire la Isha et nous a laissé comme ça, yani sans les hadiths. Alors que elle avait une excuse très très valable. C'est quoi? C'est je suis dans un dars et encore on a besoin de moi. Non seulement je suis dans un dars, mais encore on a besoin de moi. Et la Isha, je peux la retarder. Car ce n'est pas à cause d'un film. Je ne suis pas en train de voir un film. Quelqu'un qui est en train de voir un film, il peut pas retarder sa Isha. Mais quand on est dans un dars, où là, on a quelque chose d'important, et cette chose n'est pas du haram, bien sûr, on peut retarder la Isha. Donc le hadith ici veut dire quoi? Veut dire que si on tarde après la Isha, c'est-à-dire on va parler beaucoup, etc., qu'est-ce qui va se passer? On va pas se lever, pardon, à Salat al-Fajr. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est Salat al-Fajr. C'est pour ça que les ulama ont dit, mais si on a des invités, ou là, si on parle dans le din ou là, on peut parler après Salat al-Isha. Après Salat al-Isha, si c'est quelque chose de din, ou là des invités, ou là quelque chose, yani, une façon de parler dont on a besoin, on parle. Ce qui n'est pas bien, c'est de parler dans le vide et veiller, et ensuite on se lève, et voilà le soleil s'est levé, on n'a pas fait Salat al-Fajr. والله سبحانه وتعالى أعلم. أبو عبد الرحمن أنت تفضل. نعم أبو عبد الله الفرنسي. Tu peux إن شاء الله تعالى. Pose-la maintenant. Tayyib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Ya Sheikh, vous avez dit brièvement qu'à l'époque du prophète alayhi salam, il existait des toilettes. Pouvez-vous me le confirmer? Si ce n'est pas le cas, comment nous est-il parvenu les adriya concernant l'entrée sur les toilettes? Attention. Amen. Attention. Est-il vrai qu'il est obligatoire de fermer la porte des toilettes une fois on est sorti? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Pour toutes vos. Je n'ai pas terminé. Ah, pour vos attentions. Naam, jazakallahu khairan. Le premier temps, les premières années du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas les toilettes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une chose, je ne sais pas comment qu'on appelle, une sorte de bouteille comme ça en plastique. Il urinait à l'intérieur et la mettait sous son lit. Naam. D'ailleurs, cette chose existe maintenant même pour le malade. Le malade, il peut pas se lever pour aller aux toilettes. On lui achète quelque chose comme ça, spécialement. Peut-être ça se vend chez les pharmacies. Sûrement, Allahu alam. Il urine à l'intérieur. Surtout si c'est un homme, c'est plus facile pour lui. Et il la met sous son lit. Très bien. Ensuite, des années après, ils ont construit les toilettes. C'est pour ça que dans le Bukhari, c'est cité que Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle est sortie avec Umm Mistah, elle est sortie pour aller aux toilettes. Les femmes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de construire les toilettes, sortaient la nuit. Elles se rencontraient en groupe, elles allaient toutes en groupe, elles allaient aux toilettes comme ça, dans la nature. Comme ça, un endroit dans la nature, personne ne peut les voir. Naam. Les hommes étaient dans la maison et les femmes sortaient en groupe. En revenant, en revenant avec Om Mistah, en revenant, elle, yani Om Mistah est presque tombée, et vous connaissez l'histoire. Ici, dit Aïcha, dit, quand je suis sorti pour aller aux toilettes avec Om Mistah, elle a dit, c'était avant que l'on construise les toilettes. Qabla an nattakhid al kunuf. Al kanif, les toilettes. Al kanif. Jam' kunuf, les toilettes. Elle a dit, avant. Qabla an nattakhid al kunuf. Avant de faire les toilettes. Donc, à la fin, au milieu de la vie du prophète alayhi salam à Médine, ils ont construit les toilettes et il y avait des toilettes. Quand on sort, les ad'iya concernant l'entrée et la sortie, naam, les ad'iya il y a, bismillah, oudoula, min khubti, ou khabait. Quand il sort, il dit refranak, ça. Mais qui sont de fermer la porte, je ne connais pas une sunna de fermer la porte ou de ne pas la fermer. Mais maintenant, on ferme la porte à cause de, yani, pour ne pas que l'odeur se répande dans la maison, etc. Naam. Si tu fermes la porte, ce n'est pas interdit, encore c'est mieux. Et encore c'est mieux. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Naam. Question du frère Ismaïl, tafadhal. Abu Abdillah al-Firansi, tafadhal. Peux-tu transmettre, parce que j'ai lu sur un site que pour faire la prière, il faut que la femme se cache aussi les mains pour ne pas montrer la couleur de la peau. Est-ce que vrai? Si oui, quel est le verset du Coran ou le hadith qui en parle? J'ai lu sur un site que pour faire la prière, il faut que la femme se cache aussi les mains pour ne pas montrer la couleur de la peau. Est-ce que c'est vrai? Si oui, quel est le verset du Coran ou le hadith qui en parle? La réponse est basée sur est-ce que les mains et le visage de la femme sont la aura ou pas? Non. Est-ce que les mains et le visage de la femme sont des aura ou pas? Ceux qui ont dit sont pas aura, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont dit les mains de la femme et le visage ne sont pas aura, comme a dit Cheikh Al-Albani, donc il n'y a pas de problème. La femme fait la prière devant les hommes à visage découvert et main découverte. Et ceux qui ont dit que ses mains et son visage sont aura, ont dit que si elle est devant des hommes, elle doit cacher ses mains. Si elle est devant des hommes, elle doit faire la prière avec les gants. Et si elle est seule, elle peut faire à main découverte. Naam. Et le visage, bien sûr, il est interdit de le couvrir dans la salate. Sauf s'il y a des hommes. S'il n'y a pas d'hommes, il est interdit à une femme de cacher, de faire la salate avec le visage caché. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. J'espère, inshallah ta'ala, qu'elle est claire. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Alif lam mim tafadhal. Abdillah. Pose ta question, inshallah. Tayyib. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pardon. Avant de dire la question, je rappelle que la sœur qui m'a demandé de l'assurance, on avait parlé de l'assurance il y a 2 jours à peu près. Si elle est là, qu'elle me le dise. Et Benziyen, s'il est là, qu'il me le dise, Benziyen, pour répondre à sa question aussi. Salam alaikum. Ma mère est âgée et a une jambe raide. Elle prie assise. Elle vous a entendu quand vous avez dit, Allah, le puissant, ne regrette pas la prière serviteur. Qu'en est-il de la prière des serviteurs assis? Pour le dos, s'il est un peu courbé, Allah yahafdak. Celle, la personne qui a une excuse, Allah Ta'ala regarde sa salat. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lui a donné la jambe raide. C'est lui qui a fait de sorte que sa jambe soit raide et que elle a donc le dos un peu courbé quand elle fait la salat. Naam. Donc celle-là, elle est excusée et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne aucun péché. Bien au contraire, il lui donne des récompenses parce que elle est éprouvée. Elle a une épreuve, elle est malade, elle n'est pas comme toutes les autres personnes. Et masha'Allah, elle fait sa prière à l'heure et elle peut pas être debout, elle la fait assise. Masha'Allah alayha, Allah subhanahu wa ta'ala la regarde et lui donne des récompenses. Bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Abdillah, tafadhali. Abdillah, j'attends ta question. Hadr, si tu as des questions, dis-le moi. Amen. Qu'il nous garde tous, inshallah ta'ala. Amen. Ah, la sœur pour l'assurance est là. Barakallahu fik. Quand on passe aux questions, Hadr, jazakallahu khairan. Quand on passe aux questions qui ne sont plus dans le dars, rappelle-moi, inshallah ta'ala, pour lui répondre, inshallah. Un petit garçon de 3 ans d'origine belge et non musulman est décédé dans notre village. Il a été retrouvé mort dans son lit avec un sachet plastique sur la tête. Hier, une messe a eu lieu en son honneur, suivie de son enterrement dans le village voisin. Ma question est, peut-on dire, étant, rahimahullah, tout en disant de lui qu'il ira au paradis billah, a-t-on le droit d'effectuer une prière de l'absent? Naam. Pour la réponse, ici, les enfants suivent leur père. Ici, les enfants, un enfant d'un kafir, il suit son père. Ici, dans cette vie. Mais dans l'au-delà, quiconque meurt avant la puberté, qu'il soit un fils de juif ou le fils de Hitler, il ira bi'idhnillahi azza wa jalla au paradis. Tout enfant qui meurt avant l'âge de la puberté, il ira bi'idhnillahi azza wa jalla au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit awladul mushrikina khadamu ahli al-jannah. Il a dit les enfants des associateurs mushrikin, il a dit, ce seront les serviteurs des gens du paradis. Naam. Il y a un hadith dans le Bukhari, dans l'histoire de Ibrahim alayhi salam qui apprenait les gens au Coran, où le prophète aslam, on lui a demandé les mushrikin, les enfants des mushrikin, il a dit aussi les mushrikin. Ça, il est dans le Bukhari. Ça veut dire que tout enfant qui meurt, même si c'est un enfant d'un bouddhiste, s'il meurt avant la puberté, il a cette faveur d'aller au paradis bi'idhnillah azza wa jal. Il a cette faveur. Car Allah Ta'ala ne lui a marqué aucun péché. Car les anges n'ont encore rien écrit. Et les anges n'ont pas le droit d'écrire des péchés jusqu'à ce qu'ils soient yani pubères. S'ils écrivent quelque chose avant la puberté, ils écrivent les récompenses. Ils n'écrivent pas les péchés. Quant à la prière, il vaut mieux ne pas la faire. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit, il suit son père dans cette vie. Et deuxièmement, quand quelqu'un meurt avant la puberté, on n'est pas obligé de faire la prière sur lui. On a le choix. Si on veut, on fait la prière sur lui. Si on veut pas, on peut pas, on fait pas la prière sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il est mort avant la puberté. Donc celui-là, vaut mieux ne pas faire la prière sur lui. Mais l'essentiel, c'est qu'il ira au paradis. Bi'idhnillahi azza wa jal. والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب. maintenant on est à Diag 59. le Diag 59. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. une sœur qui n'a plus de père mais qui a des frères et un oncle pour le monde. On n'est pas encore. Non, on est toujours dans la salat. Regarde la question qui était avant toi, parler d'un enfant qui est mort, est-ce qu'on fait la prière sur lui? Mais puisque tu l'as déjà posé, ma'alish, c'est pas à Omhajar qu'on va pas répondre. Une sœur qui n'a plus de père mais qui a des frères et un oncle. Pour le mariage, qui doit la marier? Son frère ou son oncle? Une sœur qui n'a plus de père mais qui a des frères et un oncle pour le mariage. Qui doit la marier? Son frère ou son oncle? Barakallahu fikoum. Les tuteurs, on commence par le père. S'il n'y a pas le père, on va au grand-père. S'il n'y a pas le grand-père, l'arrière-grand-père. Maintenant, il n'y a plus les pères. On va à qui? On va au fils. Apprenez la règle, barakallahu fikoum. Comme ça, vous ne serez pas obligé de demander à chaque fois aux gens. Quand une femme veut se marier, elle cherche si elle a son père. Il n'y a pas de père, grand-père. Il n'y a pas de grand-père, classe. On descend au fils. Si elle est déjà mariée, elle prend son fils. Son fils qui est pubère, lui dit, toi, inshallah ta'ala, tu vas être mon tuteur. Si elle n'a pas de fils, elle passe au frère. Si elle n'a pas de frère, elle passe aux oncles, les quatrièmes. Amen. Ce sont les quatrièmes. Donc, Ubuwa, Bunuwa, Ukhuwa, Rumuma. Ubuwa, paternité ou la père. Bunuwa, j'allais dire Nubuwa. Fils, etc. Ukhuwa, frère, Rumuma, oncle. Naam. Diag 59, tafadhal. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Premièrement, ce qu'il y a saute, et deuxièmement, j'étais où exactement? Je parlais, est-ce que j'ai répondu à la sœur en question tuteur? J'ai donné la règle du tuteur. Vous l'avez comprise, la règle du tuteur, qu'il y avait quatre étapes. Quatre étapes. Naam, la règle du tuteur. Alhamdulillah. Donc, très vite, on commence par qui? Père, grand-père, etc. S'il n'y a pas. Fils, s'il n'y a pas. Frère, s'il n'y a pas. Oncle. Comme j'ai dit, hein. Ubuwa, Bunuwa, Ukhuwa, Rumuma. Naam. C'est à qui le tour, Inch'Allah Ta'ala? Abu Maryam 22, tafadhal. Tayyib. Maintenant, on va commencer à poser des questions, yani. Peut-être qu'ils sont hors sujet, je ne sais pas. Pourriez-vous nous parler un peu sur ça de Doha? Et aussi, je pense que l'Albani, c'est un autre hadith que celui avec le chameau pour prouver qu'il faut mettre les mains ou les genoux sous l'autre. Pouvez-vous le citer? Si vous voyez de quel hadith je parle, Inch'Allah Ta'ala. Naam, je l'ai cité tout à l'heure. Je vais le réciter. Je vais le reciter, pardon. Je commence par le hadith. Diag, vous m'avez oublié. Naam, Diag, je ne sais pas, c'est quoi ta question? Repose là, parce que je viens juste d'ouvrir la porte. Je viens d'ouvrir une fenêtre, elle est vide. Je ne vois pas, yani, où est-ce qu'elle est ta question. Repose là, Inch'Allah Ta'ala, je t'attends. Repose là, Inch'Allah, je t'attends. طيب J'ai dit que dans Naam coupe là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné aussi un autre hadith. Il a dit un hadith comme ça, il a parlé, ensuite il a dit, mais il devrait se poser calmement, plaçant d'abord ses mains suivies de ses genoux. Et il a dit, et combien est étrange la parole de Ibn Qayyim. Ibn Qayyim qui a dit que le hadith a été renversé. C'est-à-dire qu'on commence par les genoux. Cheikh Al-Albani a dit, et combien est étrange la parole d'Ibn Qayyim. Subhanallah al-Azim. Il a dit, combien c'est étrange ce qu'il a dit Ibn Qayyim. Naam. Cheikh Ibn Qayyim, comme je vous ai dit, il a dit qu'on commence par les genoux. Naam. Et je crois qu'il y a un autre hadith aussi qui parle des mains, mais je ne l'ai pas ici devant moi. Naam. Je ne l'ai pas ici devant moi. Naam. Je l'ai lu une fois ce hadith, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Où il dit aussi qu'on commence par les mains avant les genoux. Mais Inch'Allah Ta'ala, le dalil est clair. Qu'on commence avec les mains. Naam. Assalamu alaykoum wa rahmatullah. Quelle est la sunna la plus juste à faire lorsqu'il pleut dans un pays de mécréants? Est-ce que je peux faire la prière à la maison? J'ai lu qu'Ibn Abbas faisait la prière en disant aux autres de prier chez eux. Est-ce que je peux réunir la prière du Maghrib et l'Isha avec la Jama'a, même si les gens de cette Jama'a regroupent systématiquement les deux prières dès qu'il y a trois gouttes de pluie? Barakallahu fikoum. Naam. À chaque fois qu'il y a la pluie, il est permis, que tu sois dans un pays musulman ou un pays de kuffar, il est permis de faire la salat à la maison. C'est une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala aime quoi qu'on prenne de ces permissions. Et moi personnellement, quand j'étais en Algérie, quand j'étais pas imam, ça me plaisait quand il y avait la pluie. Comme ça, même mes enfants, ça leur plaisait. Masha'Allah, il y a la pluie, khlas, on va rester à la maison. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, Inch'Allah ta'ala, quand il y a la pluie, tu as cette permission de faire la salat à la maison. C'est Allah ta'ala qui t'a donné cette permission. Et Allah ta'ala aime qu'on prenne ces permissions. Que ça soit dans Westmo, que ça soit dans un pays de Kouf ou dans un pays musulman. Deuxièmement, est-ce que je peux grouper le Maghrib avec l'Aïcha, même si ces gens regroupent systématiquement les deux prières dès qu'il y a trois gouttes de pluie? Le plus juste, c'est qu'on ne peut pas grouper les prières quand il y a seulement trois gouttes. Naam. J'ai bien lu ce qu'a dit Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yirhamhum. Ils ont dit, pour pouvoir grouper la prière, il faut que la pluie soit assez forte. C'est pas une pluie agdaki tout juste. Naam, quelques gouttes. Là, il y a la pluie, la vraie pluie. Ça a commencé à tomber, je groupe. Je groupe dans la mosquée. Il n'est pas permis à la maison de grouper. Certaines personnes croient que, ils disent, je suis à la maison, il y a la pluie, je vais grouper Maghrib ou Isha. C'est pas vrai. C'est interdit, c'est pas accepté. On groupe seulement à la mosquée. Seulement à la mosquée, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamhum. Et il a donné comme condition, lui et Cheikh Ibn Baz, Allah yarhamhum, ils ont dit comme condition, il faut que la pluie, yani, soit un peu battante. D'ailleurs, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, ou adhan min matar, ou bien un mal de la pluie. Regarde, il a dit un mal de la pluie. Donc la pluie peut faire mal. Fait mal dans tes vêtements, elle te mouille, etc., etc. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tayyib. On revient, inshallah ta'ala, à qui? On revient à Salat al-Duha. Il y avait une question ici sur Salat al-Duha qui dit. Donc je crois que ce n'est pas ici. Tayyib. Je vois pas la question de Salat Doha. Tout à l'heure, je l'avais vu. Peut-être que c'était avant que je déconnecte. Il y avait une question sur Salat Doha. C'est à qui la question de Salat Doha? Est-ce qu'elle peut la reposer, Inch'Allah Ta'ala, cette personne? Naam, Abu Maryam. Naam. Pouvez-vous nous parler un peu sur Salat Doha? Salat Doha, j'en ai parlé seulement, ça fait deux jours. Inch'Allah Ta'ala. Mais je répète très vite. Les ulama ont divergé sur Salat al-Duha. Est-ce qu'il y a cette salat ou il n'y a pas? Au point où certains compagnons, comme Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, a dit il n'y a pas Salat al-Duha. Mais le plus vrai, c'est qu'elle existe. Car Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu a dit dans Sahih Muslim, a dit, mon ami intime, Khalili, c'est-à-dire le prophète Islam, Ousani, m'a conseillé de trois choses. C'est quoi les trois choses? Entre autres, de faire deux rak'at de Salat al-Duha. Il a parlé de Duha, il a parlé de Siyam, et il a parlé de faire le 8 avant de dormir. Naam. Donc Salat al-Duha existe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait Fath Mecca, il a ouvert la Mecque, il a fait 8 rak'at. 8 rak'at de Salat al-Duha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens en train de faire salat al-duha, il a dit salatul awwabin. Il a dit masha'Allah, c'est la salat des gens qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, al-awwabin. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit quoi? Il a dit que chaque jour que Allah ta'ala fait, chaque nouveau jour, on doit faire 360 aumônes, 360 sadaqa. Vous savez ça? Chaque jour que Allah Ta'ala fait, on doit faire 360 sadaqa aumônes. D'après quoi? D'après les 360 articulations qu'on a. On a 360 articulations. Donc on doit faire, comme ça dit le prophète alayhi sallam, il a dit vous avez 360 articulations, donc vous devez faire une aumône chaque jour pour chaque articulation. C'est-à-dire chaque jour on doit faire 360 sadaqa aumône. Il a dit, subhanallah, c'est une aumône, alhamdoulilah, c'est une aumône, tu enlèves quelque chose de la rue, c'est une aumône, tu enlèves un bâton, etc. Ensuite il a dit, wa yakfika aw yughnik rak'ata ad-duha. Il a dit, et ça te suffit que tu fasses quoi? Que tu fasses deux rak'at, deux salat ad-duha, ça te suffira à la place des 365 aumônes qui te sont demandées chaque jour. Ici, Ibn Uthaymin, Allah yirhamu, a dit, voilà un délil que salat ad-duha est vraiment demandée, car elle a été légiférée à la place de 365 aumônes obligatoires qu'on doit faire chaque jour. Il a dit donc, voilà un hadith que salat ad-duha est très conseillée, car elle doit être faite à la place des 365, quoi? 365 aumônes. Moi je dis en parenthèse, sauf si quelqu'un va faire 365 aumônes ce jour-là, il n'est pas obligé bien sûr de faire salat ad-duha. Mais celui qui peut faire salat ad-duha, qu'il la laisse pas, bi-idhna azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que son maximum c'est 12. Son minimum c'est 2, son maximum c'est 12 rak'at. Chaque 2 rak'at, tu dis salam alaikum. Elle commence après le lever du soleil, quand le soleil se lève bien, à peu près un quart d'heure après le lever du soleil, et elle se termine juste avant le zénith, avant que le soleil soit au milieu, avant que le soleil soit au milieu du ciel. Là, c'est terminé, bi'inna azza wa jal, salat al-duha. Je demande à Allah Ta'ala qu'il nous aide pour qu'on fasse salat al-duha, hadhi, masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Tayyib, c'est à qui le tour, inshallah, fika barakallah, c'est à qui le tour? Mahmoud 621, tafadzal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'on fait la salat à la maison en groupe, doit-on désigner quelqu'un pour faire l'adhan avant la prière? Wa jazakallahu khairan pour vos cours en français. Non. Quand on fait la prière à la maison, ce n'est pas obligé de dire, par exemple, toi tu fais l'adhan. Quiconque peut faire l'adhan. Parce que le adhan qu'on va faire à la maison, on ne va pas le faire à voix haute pour faire entendre les voisins. C'est juste entre nous dans la pièce. Comme ça, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et je m'arrête. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je fais entendre les gens avec lesquels je vais faire la prière, c'est tout. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin, par exemple, de quelqu'un qui a une belle voix ou une forte voix. Quiconque peut le faire. Ensuite, on désigne celui qui connaît mieux que nous le Coran et la Sunna, qui a la science mieux que nous, on le désigne pour faire la salat, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Abdillah, tafadhali. Pour ceux qui posent des questions dans la salle. Et Abou Abdillah Ferrancé, si tu es prêt pour la question, dis-moi. Tu m'écris numéro 1 quand tu es prêt. Abou Halima 79, prépare-toi, Inch'Allah. Taïb, maintenant vous pouvez poser vos questions qui sont hors la salle. Qui sont hors. Je vis chez mes parents avec un père qui ne respecte pas ma mère, ne la sort pas d'insultes. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que je commets un péché si je lui disais ce que je pense? Est-ce que je commets un péché si au fond de moi je ressens ni respect ni tendresse pour lui? Est-ce un péché si je lui réponds pour prendre la défense de ma mère lorsqu'il est injuste, menaçant et virulent? Lorsque ton père ou là, notre père en général commence à insulter, etc., notre mère, tous les enfants que Allah subhanahu wa ta'ala a créés défendent leur mère et n'aiment pas que leur père fasse ainsi, bien sûr. Mais des fois, quand on va parler avec notre persia, on risque d'enfoncer le clou encore plus et d'empirer, de rendre l'affaire plus pire et plus grave. Car le père va dire, tais-toi espèce de ceci et cela, toi qui est-ce qui t'a permis de parler, et il peut faire même des choses graves. C'est pour ça qu'en général, quand quelqu'un est énervé, yani, il faut aller avec lui avec sagesse, avec hikma, etc. Nam, tu peux prendre ta mère par exemple et l'emmener dans l'autre chambre, etc. Mais si tu lui parles comme tu veux toi, c'est-à-dire défendre ta mère ici, tu risques vraiment de faire de grands problèmes et yani, qu'il t'arrive des choses même graves. Quand quelqu'un est énervé, ensuite il dit c'est qui celle-là? Celle-là c'est ma fille, hier yani, elle faisait ceci, cela, elle était jeune, maintenant classe. Elle a grandi, elle sait parler, elle parle à son père, etc., etc. Il va faire yani, des doros. C'est pour ça que il faut avoir beaucoup de hikma et attendre, inshallah ta'ala, qu'il soit dans le calme et lui parler avec hikma. Lui parler avec hikma, mon père, tu sais, Allah, yani, quand tu dis comme ça, ma mère, yani, on sent des choses et je sais que ma mère se trompe, etc. Mais Allah, yani, tu lui donnes comme ça avec sagesse, inshallah ta'ala, il accepte. Mais dans les moments de colère, je ne conseille pas. Je conseille d'éloigner sa mère, hein, de l'éloigner, de lui dire, classe, va dans ta chambre, etc. Et tu l'as fait rentrer dans la chambre, etc. De l'éloigner de lui. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un conseil, c'est tout. Je sais que c'est difficile. Hein. Tu prends la défense, etc. C'est vraiment difficile. Et ça risque d'empirer. Hein. C'était l'affaire. L'affaire, c'était avec lui et ta mère. Maintenant, vous allez être deux. Non, il va dire, hein, vous vous êtes concerté contre moi, donc vous voulez me faire sortir de la maison, vous m'avez déclaré la guerre, vous voulez ceci, cela, et là il va commencer à inventer des choses. Non. Wallah subhanahu wa ta'ala, c'est juste un conseil. Non. Il y a la question de Diak 59 qui n'est pas passé. Non, où est-ce qu'elle est la question de Diak 59? Je ne la vois pas. Non, je ne vois pas devant moi la question de Diak 59. Si. J'ai répondu à Diak 59. Je lui ai répondu. Il a parlé de Salat et de Adhan, etc. Je lui ai répondu bi-idnillah azzawajal. Non, je lui ai répondu bi-idnillah azzawajal. Non. Une seconde sur la ta'ala. Non. Tayyip, c'est quoi la question? Est-il permis de garder des contacts, non, avec nos pays de mécréance par le consulat, par précaution, en cas de retour pour problèmes médicaux ou autres, après avoir accompli la hijra? C'est-à-dire de garder nos papiers, passeport français, carte d'identité, ou doit-on tout abandonner et s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Je pense que Allah ta'ala alam, c'est un avis seulement, c'est un avis que je donne. Je pense que si tu les gardes, c'est mieux. Allah ta'ala alam. Car comme tu as dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Quelque chose, yani, de un grand besoin. Ou là, on doit aller vraiment à un hôpital là-bas en urgence, ou là, on doit aller, je ne sais pas, quelque chose d'urgent, et on dit dommage, yani, on a pris nos papiers, on les a déchirés, etc. Non, je crois que de préférence, wallahu ta'ala alam, tu gardes ces choses à côté, de côté, tu les laisses, on ne sait jamais ce qui va se passer d'ici demain. Avec toujours dans l'intention de ne pas revenir vers la hijra. De ne pas revenir vers ce pays. Non, de ne pas revenir vers ce pays pour habiter là-bas. Est-ce qu'on ne rentre pas dans le manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Non. C'est pas une question de manque de confiance. Alors, c'est pas une question de manque de confiance. La confiance, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. Non, moi je suis confiant et en plus de cela, j'ai l'intention de ne plus y revenir. Mais je dis que je ne sais pas ce qui peut se passer, c'est tout. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Et de toute façon, ce que j'ai dit, c'est juste quoi, un avis. Ça veut dire que celui qui veut déchirer ou là, qu'il déchire. Celui qui dit, moi, classe, c'est terminé, j'ai tout quitté, je déchire tout. Il peut le faire, bi'idhna azza wa jal. Il peut le faire. Non, il peut le faire s'il veut y aller, il est sûr qu'il n'ira jamais dans l'autre pays. Mais moi j'ai dit au cas où, c'est tout, au cas où il y a quelque chose qui se passe, au cas, c'est tout. C'est juste un avis, juste une petite précaution. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. طيب. آمين يا أبي عبد الله الفرنسي. أبو حليمة 79 تفضل. وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. شيخ ما رابور. Cheikh, ma question est en rapport avec la prière, mais pas avec le cours ce soir. Ma'alesh. Tafaddal khair, inshallah. Voilà, est-il permis durant le qiyam al-layl ou autre prière surrogatoire de prier plus de deux rak'at sans faire de tashahhud? Exemple, je prie 6 ou 7 et je fais juste le tashahhud final avant de saluer. Barakallahu fik, excusez-nous, inshallah, de nous permettre de prendre de votre temps. Naam. De préférence, regarde, de préférence, après chaque deux rak'at, tu dis salam alaykoum dans Qiyam al-Layl. Sauf dans le 8. Quand tu fais salat al-witr, tu peux faire par exemple 5 à la fois. Et sans t'asseoir et 5e, tu dis salam alaykoum. Ou bien 7 à la fois. 7. Et 7e, tu dis salam alaykoum. Mais en général, quand on fait des prières surérogatoires, que ce soit de nuit ou de jour, à chaque fois qu'on fait deux rak'at, on dit salam alaykoum, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit salatul layli, salatul layli, la prière de la nuit. Et l'Albani, Allah yirhamo, a authentifié wa salatul nahar, et la prière du jour, mathna mathna, deux rak'at, c'est-à-dire après chaque deux rak'at, on dit salam alaykoum. Donc de préférence, après chaque deux rak'at, tu dis salam alaykoum. C'est pour ça que Cheikh l'Albani, Allah yirhamo, a dit, par exemple, ceux qui disent, par exemple, les quatre rak'at avant le dhuhr, sunna mu'akkada, quatre rak'at avant le dhuhr, certains disent, on les fait d'un seul trait. Je ne m'assois pas jusqu'à la quatrième rak'at, je m'assois, je fais le tashahhud, je dis salam alaykoum. Cheikh Al-Albani a dit, il y a trois étapes. Il a dit, on commence par la meilleure, et ensuite la moins bonne, ensuite la bonne, ensuite la moins bonne. La meilleure, il a dit, c'est 4 rak'at, tu fais 2, salam alaikum, ensuite 2, salam alaikum. Ensuite, il a dit, la deuxième, moins, il a dit, tu fais comme salat al-dhuhr. Tu t'assois, tu fais tashahhud à la deuxième, tu te lèves, tu fais la troisième, quatrième, tu t'assois, tu dis tashahhud et salam alaikum. Ensuite, la moins, il a dit, tu fais 4 d'un seul trait, sans t'asseoir au milieu pour dire tashahhud. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les meilleurs salats, c'est à chaque deux salats, tu dis salam alaikum. Sauf pour le 8. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Maryam, tafaddali. Justement, c'est ça la mushkila, Abu Halima. C'est la mushkila, le 8. Est-il qiyam al-layl ou pas? Ceux qui ont dit, tout ce qu'il y a après salat al-isha, après les deux rak'at, ça s'appelle qiyam al-layl. Ils ont dit, donc, dans ce cas, c'est pour ça que je t'ai cité le 8. C'est pour ça que le 8, celui-là, tu peux le faire d'un trait, 7 à la fois. Mais moi, quand je parlais de Qiyam al-Layl, je voulais dire, par exemple, si quelqu'un dormait et se levait, il veut faire ce qu'on appelle tahajjud, je lui conseille, après chaque deux rak'at, il dit, salamu alaikum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah yjazik khair. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Entre les deux sejdettes, lorsqu'on dit Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, doit-on être assis sur nos pieds ou les pieds avec les doigts du pied en direction de la Qibla? Inch'Allah, barakallahu fikum, salamu alaykum wa rahmatullah. Naam. Attendez, pour que je me rappelle, il faut que moi je fasse une prosternation et je vais m'asseoir pour me rappeler une seconde. Allahu Akbar, je m'assois comme ça. Naam. Donc, voilà, des fois il faut faire des choses pour se rappeler. Donc, Inch'Allah, tu t'assois sur ta cuisse gauche. Tu t'assois sur ta cuisse gauche, et le pied droit, tu mets les orteils les doigts des pieds doivent être vers la Qibla. Naam. On s'assoit sur la cuisse gauche. Quand on s'assoit sur la cuisse gauche, le pied gauche, les orteils ne peuvent pas être dans la Qibla parce qu'on s'est assis dessus. Mais le pied droit, c'est les doigts du pied droit, c'est-à-dire les orteils, doivent être vers la Qibla. Ensuite, il y a une autre sunna que beaucoup de gens ne connaissent pas dans la salat. Beaucoup de gens. Je vais te la montrer, c'est une occasion. Quand on s'assoit entre les deux prosternations, tu peux t'asseoir comme s'asseyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tes talons. Naam, tu t'assois sur les talons. Les talons, on s'assoit sur les talons et on a les doigts des pieds, les doigts des orteils dirigés vers la Qibla. Inch'Allah, vous avez compris. On s'assoit sur les talons. On joint nos talons et on s'assoit sur eux. Et on a les pieds dans la Qibla. On n'est pas arrivé à cette sunna. Elle va venir, inch'Allah ta'ala, dans la prochaine salat. Pour que vous appreniez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'appliquer et la propager chez les gens, chez la famille, etc. Et vous aurez beaucoup de ajr, masha'Allah, pour celui qui fait cela avec l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'était qui a posé cette question? C'était, je crois, Oum Maryam. On le voit. Salam alaykoum. Non, c'est Oum Maryam. Oum Maryam, j'attends toujours ta question. Oum Maryam, si tu es là, j'attends ta question. Oum Maryam. Assalam alaykoum. Alaykoum salam. Wa barakatuh. Maghfiratuh. Doit-on dire A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, avant de dire les doigts du recours, du soujoud ou tout autre doigt du soir ou du matin? Les femmes doivent-elles aussi écarter les bras lors du soujoud? Une personne me dérange en PV, j'ai peur qu'elle agisse de même avec les autres. Donc s'il continue, je vous donne son pseudo. Naam. Si cette personne qui écrit je ne sais pas quoi en PV, tu me le dis, je le fais directement sortir de la salle. Et surtout les sœurs, je vous ai toujours dit, pour assister le DAS, fermez vos PV. Barakallahu fikoum, fermez vos PV. Celle qui ne ferme pas son PV, s'il n'y a jamais quelqu'un qui l'envoie quelque chose, et peut-être elle tombe dans la fitna, c'est de sa faute. Non. Alors, si jamais elle a oublié de fermer son PV, il y a quelqu'un qui lui a écrit quelque chose, elle me dit qui c'est ce quelqu'un, et moi, inshallah ta'ala, je vais le faire sortir de la salle. Abou Malik, Abdel Haq 2, hein? Qu'est-ce qu'il dit exactement, Adam? Il continue, donc je vous donne son pseudo. Naam, qu'est-ce qu'il continue? Et je peux vous prouver. Naam, dis-moi ce qu'il me dit. Peut-être que c'est quelque chose de pas grave. Sinon. D'ailleurs, il n'est pas dans la salle, Wesmek. Je le vois pas dans la salle. Est-ce que tu vois, toi, où est-ce qu'il est dans la salle? Abou Malim, est-ce que tu vois ce qu'il est dans la salle? Même toi, Abou Malim? Envoie-moi ce qu'il t'a dit. Envoie-moi ce qu'il t'a dit. J'attends, hein. J'ai arrêté à boumer à cause de toi. J'attends, hein. Il n'est plus là. C'est pour ça que je cherche, je ne le trouve pas. Non. Oui. Maintenant, franchement, j'ai pas une clue là, c'est bon là, mais j'ai même pas le temps de lire tout ce qu'il a écrit tellement il y a des gens qui attendent. Muslima 07, tafadali. Muslima 07, tafadali. Quand l'imam dit Samia Allah liman hamida, après un beau cours, que doivent dire les gens qui prient derrière lui? Car je n'ai pas trop compris. Salam, pour vous dire au chef que j'étais déconnecté et que je suis juste après Jamel 38. Ça, c'est Hidal. Ça y est. Maintenant, je viens de me rappeler une chose. Est-ce qu'il n'y avait pas une question avant celle-là? Attendez une seconde, je monte un peu haut. C'est comme si quelqu'un m'avait posé une question et j'ai oublié. Voilà, Maryam. Ça, Maryam m'avait posé une question. Doit-on dire A'oudou billah min shaitan rajim bismillahir rahim avant de dire les doua? Non, on ne doit pas dire cela. Avant de dire les doua, on ne dit rien. On dit directement Subhan rabbil a'la, Subhan rabbil a'la wa bihamdi, Subhan rabbil a'la. On ne dit pas A'oudou billah min shaitan rajim. On ne dit pas. Et si on devait dire par exemple A'oudou billah min shaitan rajim bismillahir rahim, de préférence, si on devait, mais on ne dit pas, maintenant je parle par exemple du Coran, si on va lire le Coran, de préférence on ne dit pas A'oudou billah min shaitan rajim, on dit A'oudou billah min shaitan rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Car Cheikh Al-Albani a dit dans tous les hadiths, je n'ai jamais trouvé A'oudou billah min shaitan rajim, j'ai seulement trouvé A'oudou billah min shaitan rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Là, on l'a dit, ça fait longtemps. Maalish. Les femmes doivent-elles aussi écarter les bras lors du soujoud? Naam. Les femmes font la prière exactement comme les hommes la font. Exactement. Celui qui dit que une femme ne doit pas faire telle chose dans la prière comme l'homme, on lui demande le dalil. On lui dit pourquoi? Donne-nous le dalil. Le prophète alayhi sallam a dit, faites la prière comme vous m'avez vu prier. Et il parlait aux gens et aux femmes. Faites la prière comme vous m'avez vu prier. Et il a dit, les femmes ont été yani tiré ou là comme ça de l'homme. Shaqa innaman nisa'u shaqa'iqur rijal. Shuqqat. On l'a prise de l'homme, c'est-à-dire Hawa, on l'a fait sortir de Adam. Donc c'est yani le prophète alayhi sallam veut dire ici, elle est comme l'homme. La femme, d'où elle est venue la femme? Elle est venue de l'homme. Donc là c'est une partie de l'homme, c'est sa moitié. Donc ce que fait l'homme, fait la femme. Donc la femme elle ne s'écarte pas beaucoup, seulement quand elle est avec des hommes étrangers. Naam. Quand elle fait la prière, par exemple, dans la rue ou là, dans un jardin, où là, il y a des hommes qui sont en train de la voir, elle ne s'écarte pas beaucoup. Naam. Mais quand elle est dans sa maison et dans sa pièce, elle fait exactement comme font les hommes. Naam. Voyez. Salam alaikum. Quand l'imam dit Samia Allah ibn Hamidah après un rukou, que doivent dire exactement les gens qui prient derrière? Je n'ai pas trop bien compris. Naam. Quand l'imam dit Samia Allah ibn Hamidah, premièrement, lui aussi, lui l'imam, doit dire Rabbana wa lakal hamd. L'imam dit deux choses. Il dit Samia Allah ibn Hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Et les gens qui sont derrière lui disent la même chose. Quand l'imam dit Samia Allah ibn Hamidah, il dit Samia Allah ibn Hamidah. Et lui, il ajoute Rabbana wa lakal hamd. Et eux, ils ajoutent Rabbana wa lakal hamd. J'espère, Inch'Allah ta'ala, que cette fois tu as compris. Sinon, je répète une troisième fois. Quand l'imam dit Samia Allah liman hamidah, il doit ajouter Rabbana wa lakal hamd. Quand je dis il doit, c'est une sunnah. Et nous, on dit la même chose. On dit Samia Allah liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Pourquoi on dit cela? Car beaucoup de gens croient que l'imam, quand il dit Samia Allah liman hamidah, nous, derrière lui, on dit seulement Rabbana wa lakal hamd. On ne dit pas Sami Allah liman hamida. Voilà, j'espère, Inch'Allah, que c'est compris. Oui, ça va voir, car je pensais que les gens derrière devaient dire que la phrase d'après. Voilà, justement. C'est ce que je voulais expliquer pour que les gens ne pense plus ce que tu as pensé. Naam. Umm Salama, tafaddali. C'est plus clair, alhamdoulilah. Moi, je ne savais pas que vous n'avez pas compris. J'essaie d'expliquer au maximum pour que les gens comprennent bien et que ça soit clair, pour qu'ils ne se trompent pas, surtout dans la salat. C'est pour ça que je répète et répète et répète jusqu'à ce que moi je me dis dans ma tête, ils ont inchallah compris. Et c'est pour ça que je vous donne maintenant l'occasion de poser vos questions pour que je sois sûr que vous ayez compris. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, rahmatullah. Je suis la personne qui avait posé la question sur l'assurance. Et aussi, Ghaniya a perdu sa place car vous lui avez dit qu'elle aura aussi une réponse aujourd'hui pour sa situation. Naam, pour Wesmo. Pour Oumi, c'est pas pour Hilal. Hilal, rappelle-moi. Barakallahu fik, Hilal. Rappelle-moi, Wesmo. Rappelle-moi où était ta place. Rappelle-moi où était ta place. Quant à l'assurance, elle peut prendre. Naam. L'assurance, elle peut prendre bi-idnillahi azza wa jal l'argent qu'on va lui donner. Elle peut prendre l'argent qu'on va lui donner. Ensuite, l'assurance, elle prend inchallah l'argent que l'assurance va lui donner à cause de l'homme, l'assurance de l'homme du conducteur qui a été la cause de la mort de cette personne. Ghaniya, hier, je pensais à ta question. Et que peut-on faire avec cet argent? Cet argent qu'on donne à la famille de cette personne, c'est leur argent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent avec cet argent. Ils achètent une voiture, ils achètent une maison, ils construisent une mosquée. Ce qu'ils veulent faire, ils font. Ils ne font pas seulement le haram. Ils ne font pas sadaqa. Naam. Ils font la sadaqa. Ou bien, ils me l'envoient ici. Ils m'envoient ici au Koweït. J'attends cet argent s'ils l'envoient. Naam. Bon, entre parenthèses, je suis en train de plaisanter. Je veux dire qu'ils peuvent faire tout ce qui est permis, inshallah ta'ala. C'est leur argent, leur propre argent. Ce n'est pas haram. Ils font ce qu'ils veulent, bi'idhnillah ta'ala, dans le halal. S'ils veulent faire sadaqa, ils sont libres. Naam. S'ils veulent acheter une maison ou la construire une maison ou l'acheter une voiture, je ne sais pas d'ailleurs combien on va leur donner, mais inshallah ta'ala c'est halal. Je reviens à Ghaniya. J'ai dit que hier je pensais à la question, ensuite je me suis dit je ne vais pas me presser puisque je vais lui répondre sur Paltok et ne pas lui écrire, car quand je réponds c'est plus simple. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai oublié. C'est pour ça que je vais maintenant lire la lettre comme ça tout seul, dans mon cœur, et je vais répondre bi-idhnillahi azza wa jal. Une seconde, inshallah ta'ala. Et Wasma Hilal, rappelle-moi où est-ce qu'elle était ta place, inshallah ta'ala. Ghaniya, rappelle-moi deux choses, Barakallahu fik, rappelle-moi deux choses. C'est quoi le pseudo? Tu m'as écrit avec quel pseudo? Bien, rappelle-moi, tu m'as écrit en Hotmail ou Gmail? Tu m'as écrit l'adresse, c'était en Hotmail ou là au Gmail? J'attends, inshallah ta'ala, la réponse. Hotmail, d'accord. Parce que moi, j'ai ouvert le Gmail. Naam. Inch'Allah ta'ala, je vais voir très vite. Je suis en train de chercher, inchallah, une seconde. Non. Subhanallah. j'avais cette chose en ma tête, ensuite je l'ai oublié, le shaitan m'a fait oublier. Le défaut du Hotmail, c'est que pourquoi j'aime pas le Hotmail, parce que quand on va lire le courrier, il n'est pas classé. Il n'est pas classé comme le Gmail. Le Gmail, il est classé par exemple 12 mai, 11 mai, 10 mai, 9 mai, 8 mai, comme ça on sait. On revient vite. À la lettre. Maintenant, c'est pas classé. Je dois chercher. C'est à peu près quelle lettre? Je dois chercher à peu près quelle lettre? 13 mars, 1 mars, 1er mars, 7 mai. 7 mai. Oh, c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. Attends, je crois que je l'ai trouvé. Hein. Je crois que c'est pas celle-là. Non. C'est pas celle-là, Mohamed Kouidri, celle-là, c'est pas Mohamed Kouidri. Ou bien là, elle m'envoie maintenant, ou bien elle me donne, c'est quoi son pseudo, là, dans le Hotmail. C'est-à-dire, le temps que la lettre arrive, Inch'Allah Ta'ala, Oum Salama, Tafazali. Finalement, je viens de la faire descendre, je me suis trompé. Mohamed 0504, Fazal. محمد 504 تفضل. السلام عليكم. كيف الحكم de celui qui fait la prière en plaçant les mains sous le nombril? نعم. Celui qui fait la prière en plaçant les mains sous le nombril, Inch'Allah Ta'ala, sa prière est acceptée, mais il n'a pas le même nombre de récompenses que celui qui a posé ses mains sur sa poitrine, car celui-là a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle Muwafaqa, et l'autre, il s'est trompé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais posé ses mains sous le nombril, jamais. Naam. Cela se base sur, je ne sais pas, un madhab, je crois, l'Abu Hanifa ou quelque chose comme ça, qu'ils disent, on pose sous le nombril, mais je veux dire qu'il n'y a rien d'authentique qui montre que quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ses mains sous le nombril. Tous les hadiths vont dans le sens qu'il mettait ses mains sur ses poitrines. Qu'on soit un homme ou une femme. D'ailleurs, c'est, yani dans le hadith sahih, qu'on met exactement sur les seins. Car même un homme, on dit de lui, en arabe littéraire, on dit les saints de l'homme. C'est là-bas, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Ta'ala a posé ses mains, yani sur mes épaules, j'ai senti sa froideur entre mes seins. Bayna thadiyya, thadiyya. Naam. Donc, c'est là-bas qu'on pose nos mains, Inch'Allah Ta'ala, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Car certains disent, seules les femmes posent leurs mains sur leur poitrine et les hommes un peu plus bas. Ce n'est pas vrai. Même l'homme il pose sa main sur ses poitrines, sa poitrine, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib, pour Hilal, 1406. Où est-ce que tu étais, Hilal? Tu t'enlèves le point jour, le point noir pour me dire où est-ce que tu étais. Naam. Hilal, tafaddali. J'ai dit que quiconque qui perdait ça à sa place, il me dit où est-ce qu'il est. Mais il me dit où est-ce qu'il était et je le remets à sa place, inshallah ta'ala. Après Jamal, d'accord. Alors après Jamal, Jamal 38, tafaddal. Jamal 38, tafaddal. Est-ce que lors de la lecture du Coran, pendant la prière, où il y a un passage qui mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire à voix haute sallallahu alayhi wa sallam, car la mosquée, il y a beaucoup qui le font, merci. Non, on ne peut pas. Quand on lit le Coran, et on passe dans un endroit où c'est écrit Muhammad, par exemple, Muhammadun Rasulullah, on ne s'arrête pas et on dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est une bid'a. Naam. On ne dit pas, quand on lit Muhammad, on s'arrête dans la salat et on dit sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il n'y a aucun délit en ce sens. Naam. Ça rentre dans la bid'a. On ne doit pas dire sallallahu alayhi wa sallam dans la salat. Et bien sûr, les ignorants vont dire, donc c'est une preuve que vous n'aimez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On dit, vous êtes des messakins. Nous, c'est parce qu'on l'aime qu'on ne dit pas cela. Parce que lui, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a jamais dit, ni les compagnons ne l'ont dit. Donc nous, c'est nous qui le suivons vraiment. Nous, on aime le suivre, c'est pour ça qu'on fait comme lui. Lui, il n'a pas dit, nous on ne dit pas. Mais vous, vous inventez des choses de votre tête, et vous voulez adorer Allah avec des choses qu'il n'a pas légiférées. Vous voulez adorer Allah avec des bid'ahs et des innovations, Allah Ta'ala n'acceptera pas de vous. Naam. Une seconde, Inch'Allah. Tayyib. C'est au tour de Hilal, tafaddali. Assalamu alaikum. Est-ce que si l'on dit lors de la prosternation une fois Subhanallah Al-A'la seulement, et aussi parfois avant de dire Subhanallah, il arrive de dire nos invocations, la prière est-elle acceptée? Si on dit une seule fois Subhanallah, c'est accepté. Non. Car le minimum c'est de dire une fois. Le minimum c'est de dire une fois. Mais celui qui dit une fois, c'est accepté, je dis. Et c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas donné beaucoup d'importance à la prière. Naam. Celui qui dit une fois, c'est quelqu'un, Allah Ta'ala alam, qui la prière pour lui n'a pas beaucoup d'importance. Il veut la liquider vite. Subhan Rabbi al-A'la, khlas. Aïe, assalamu alaikum, alhamdoulilah. Donnez-moi à manger. Là, là, là. Ça se fait, je dis, c'est possible, mais de préférence de ne pas le faire. Naam. Parce que plus tu invoques Allah Ta'ala, plus c'est un délit qu'on aime. Vous ne remarquez pas, si on est une seconde, hein, et vous ne remarquez pas que plus on aime quelqu'un, plus on ne voudrait pas s'arrêter de le citer. Vous avez remarqué ça? Quand on aime quelqu'un, on n'arrête pas de parler de lui. Où on va, on parle de lui. Dans toutes nos assises, où on s'assoit, on parle de lui. On se lève, on parle de lui. Dans les rêves, on fait un rêve de lui, tellement on aime cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala, si vraiment on l'aimait, on ne se serait pas arrêté de faire subhanallah, subhanallah, même hors salat. Dans la rue, je marche, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Mais, comme on ne l'aime pas beaucoup, on cite autre chose beaucoup plus que lui. Moi, au lieu de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, je préfère yani, penser comment faire rentrer beaucoup d'argent. Je préfère penser à comment faire rentrer. Et quand je pense à l'argent, comment je vais faire rentrer l'argent, etc., je n'ai pas le temps de dire subhanallah, alhamdulillah. Non, je suis yani, occupé par beaucoup d'autres choses. والله يهدينا الله يهدينا ويعم الله سبحانه وتعالى يملأ قلوبنا بالإيمان وحلاوة الإيمان الله يهدينا et il nous ouvre nos cœurs pour qu'on l'invoque jour et nuit. نعم طيب elle a posé une autre question. Elle a dit et aussi parfois avant de dire سبحان ربي الأعلى il arrive de dire nos invocations. Non, on ne peut pas dire les invocations avant de dire سبحان ربي الأعلى. Quand on a inversé ça, quand on inverse, on s'arrête et on corrige. J'ai fait des invocations, j'ai dit par exemple Allahumma shfini ni marid, ensuite j'arrête, je commence, je reviens aux invocations, je dis subhan rabbi al-a'la, subhan rabbi al-a'la, subhan rabbi al-a'la, ensuite je fais vite la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je commence à faire des doigts, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous ne serez jamais plus près d'Allah que quand vous êtes dans la prosternation. Alors, faites beaucoup de doigts quand vous êtes dans la prosternation. Naam. Omar 54, tafadhal. Omrania, j'ai reçu ta lettre, mais c'est un peu difficile de la lire et de répondre aux questions. Si tu as un peu de temps, tu restes, inshallah ta'ala, après le cours. Si tu as un peu de temps, il y a une personne qui va m'attendre. Tu attends toi aussi, inshallah ta'ala, après le cours et je te réponds directement, si tu veux. Naam. Si c'est oui, tu me fais signe que c'est oui. Omar 54, salam alaikum, wa alaikum salam. Pouvez-vous nous dire dans quelles conditions doit-on faire la prière du voyageur et comment la faire? Pouvez-vous donner des exemples? Barakallahu fik, shir. La prière du voyageur, on la fait quand on est en voyage. Quand on est en voyage. La mouchkila, c'est quoi? Le grand problème, c'est quoi? C'est que quand c'est temps qu'on est en voyage ou pas, et quelle est la distance qui, si on la traverse, on peut dire qu'on est voyageur. C'est ça la grande mouchkila. Le plus vrai, c'est qu'il n'y a pas une distance déterminée. Le plus vrai. Mais certains on se base sur comme ça des hadiths, etc., des affaires, etc., et on dit il y a une distance déterminée, comme c'est par exemple dans le Madhab al-Maliki, qui dit 84 km. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, on ne peut pas faire la prière du voyageur si c'est moins de 81 km. Je répète, Cheikh Ibn Baz, l'ayrmou, dit, on ne peut pas faire la prière du voyageur si c'est moins de 81 km. Mais j'ai dit tout à l'heure, le plus vrai, c'est qu'il n'y a rien dans la sunna qui détermine exactement quel est le nombre de kilomètres. C'est pour ça que même à 60 km, 50 km, on peut faire la prière du voyageur. Mais seulement, est-on voyageur ou on ne l'est pas? Est-ce qu'on est voyageur ou on ne l'est pas? Ça revient au urf. Urf, ça veut dire ça revient aux habitudes et aux coutumes. Aux coutumes. Est-ce que les gens, dans leur coutume, quand ils vont de telle ville à telle ville, c'est un voyage ou ce n'est pas un voyage? Si c'est un voyage, khlas, tu fais deux rak'at pour le dhuhr au lieu de quatre. Deux rak'at pour le asr au lieu de quatre. Trois rak'at pour le maghrib. Et Isha, tu fais seulement deux rak'at. 150 km, masha'Allah. Naam, c'est un voyage. Masha'Allah, 150 km, khlas, tu raccourcis de la salat. Naam, 150 c'est beaucoup. Naam, tu raccourcis, tu fais dhuhr 2 rak'at, asr 2 rak'at, maghrib 3 rak'at, isha 2 rak'at, ensuite tu fais pas shafa, les 2 rak'at après l'isha tu les fais pas, et tu fais seulement l'huître. Naam, et tu fais pas sunnah al-mu'akkada, tu fais pas les 12 rak'at qu'on fait. Si tu veux faire doha, tu peux faire. Si tu veux faire doha là-bas, tu peux faire inshallah ta'ala. Ibn Taymiyyah Allah yahmou a dit quelque chose yani, qui m'a beaucoup touché, qui m'a aussi beaucoup fait changer de choses. Il a dit la distance, la grande distance avec un temps court n'est pas un voyage. Et la petite distance avec un temps long est un voyage. Subhanallah al-Azim, regardez ce qu'il a dit. Ça se voit que c'est un grand alim. Il a dit la grande distance avec un temps court, ce n'est pas un voyage. Et la petite distance avec un temps long, c'est un voyage. Je donne un exemple. Des fois, par exemple, là, je vais partir, je vais faire une distance de 500 km. Et imaginez, je vais faire cette distance de 500 km en quoi? Avec la fusée. Je monte dans une fusée et je fais 500 km. Donc combien vais-je faire 500 km? Peut-être une minute. Il a dit ça, c'est pas un voyage. La distance est très longue, 500 km. Mais il a fait ce voyage en une minute. Il a dit c'est pas un voyage. Il a dit mais la distance qui est courte, par exemple 10 km, je vais faire 10 km. 10 km c'est rien, ça? Mais je vais les faire à dos d'âne. Je vais monter sur un âne et faire 10 km. C'est sûr que je vais rester peut-être une heure ou deux pour arriver. Il a dit ça, c'est un voyage. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Na'am. عابر سبيل تفضل عابر سبيل تفضل تفضل عليكم السلام ورحمة الله أم غنية tu m'as pas rendu de réponse. C'est la question d'un frère, tafadhal. Elle m'attend, d'accord. De toute façon, normalement, on a terminé. Hein. Ça fait longtemps qu'on a terminé les questions-réponses. Mais puisque demain, je ne travaille pas, je vais ajouter encore 20 minutes. C'est-à-dire, je vais m'arrêter à 1h30. Il est chez moi 1h05 du matin, 1h10. C'est-à-dire à 1h30, je vais arrêter, Inch'Allah, 20 minutes. C'est pour ça que faites un peu vite. Abr Sabil, tafadhal. Pour ne pas perdre de temps. Muslima 514. Tafadhali, peut-être Abr Sabil a des problèmes. Tafadhali. أبو عبد الرحمن نعم la sunna de mettre les orteils en direction de la Qibla, beaucoup de gens n'ont mal compris cette sunna et la font sur la istiraha juste avant de se relever pour la troisième raka alors que c'est bayna sijdatayn. نعم صح صح attends une seconde طيب attends une seconde dire quelque chose ici une seconde نعم une seconde inchallah ta'ala je vais voir ici une chose très importante pour que je sois sûr. On commence par Abu Abdurrahman. La sunna de mettre les orteils en direction de la Qibla, beaucoup de gens l'ont mal comprise, cette sunna, et ils la font sur la Jis Istiraha juste avant de se relever pour la troisième raka. Alors, na'am. Quand on fait la Jis Istiraha, on s'assoit sur la jambe gauche. Na'am. On s'assoit sur la jambe gauche et non pas sur les talons. On s'assoit sur les talons quand on est entre les deux. Entre les deux prosternations. Quand je dis on s'assoit sur les talons, si on veut, hein, c'est-à-dire de temps en temps. Sinon, on s'assoit sur le pied gauche aussi quand on est entre les deux prosternations. Naam. Mais dans istiraha, mais quand on fait du istiraha, on s'assoit sur le pied gauche. Naam. C'est pas sur l'étable. Une personne de ma famille avait acheté une maison ici, Villa de Coffre. Et comme elle prend sa retraite et compte retourner de son pays, elle devait vendre sa maison. Le problème est qu'ici, la grande majorité des gens achètent les maisons sur prêt usuraire. La personne a-t-elle commis un péché en vendant sa maison en sachant que l'acheteur demandera à la banque de lui prêter de l'argent avec intérêt? Est-ce que ses enfants ont le droit de prendre cet argent? L'autre, à qui je vais vendre? La personne à qui je vais vendre, s'il va demander des intérêts ou pas, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Non. Ou là, il va voler de l'argent ou là, ça ne me regarde pas. Non. Sauf s'il me dit, attends, je vais voler, je vais revenir. Là, moi, je vends mon argent. L'essentiel, c'est qu'il me donne de l'argent. Même si, quoi? Même s'il travaille dans un bar. Il travaille dans un bar. Il va me ramener l'argent du bar. Moi, ça ne m'intéresse pas toutes ces choses. L'essentiel, c'est que je lui ai donné un appartement, il m'a donné son argent, même si son argent est haram. Naam. Sauf bien sûr, s'il a volé l'argent à quelqu'un, je ne l'accepte pas. Donc, inshallah ta'ala, on a terminé avec cette question. Reste, c'est quoi l'autre question? Ses enfants ont droit de prendre, bien sûr. Bien sûr, si c'est halal, c'est que ses enfants ont droit d'y participer. Abu Abd al-Hakim, j'ai vu dans mon rêve, Allahu Akbar, on va rentrer dans les rêves, que deux personnes me faisaient ruqya dans une mosquée. Puis ils m'ont dit que je pouvais y aller et que j'étais bien. Cher, je précise que j'ai un cancer et ils me font des traitements avec l'acupuncture. Naam. Tayyib, Abr Sabil, c'est quoi la question? Abu Abd al-Hakim, c'est quoi la question? Allah subhanahu wa ta'ala an yashfiyak. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Des gens qui avaient le cancer, Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés et les a guéris. Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, yashfiyak. Naam. Tayyib, ici, peut-il savoir ce que signifie ce rêve? Naam. C'est sa sœur qui a un cancer. Naam. Ce rêve, elle essaye de l'interpréter toujours vers une bonne chose. Naam. Elle interprétera ce rêve que elle va être guérie. Elle interprète ce rêve, Inch'Allah ta'ala, qu'elle sera guérie. Et que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire une issue. Et je connais des gens, yani, personnellement, qui avaient le cancer et ont été guéris. Donc elle ne commence pas à aller à droite et à gauche et à demander à n'importe qui qu'est-ce que ça veut dire ce rêve. Mais qu'elle le prenne dans le bon sens et dise que bi'idlillah ta'ala je serai guéri. Naam. Abu Haroun, tafaddal. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il obligatoire pour un enfant de 12 ans qui a école le matin de le réveiller pour salat subh, sachant qu'il n'est pas encore pubère? Demain pour la salat isha, quand elle est plus tard, barakallahu fik. Naam, pour quelqu'un qui n'est pas encore pubère, la salat n'est pas obligatoire pour lui. Naam, si le fait de le réveiller pour la salat, yani, n'est pas loin de l'école, yani on le réveille, il fait la salat et une demi-heure il va à l'école, il faut le réveiller. Naam. Mais sinon, ce n'est pas obligé pour lui. Ce n'est pas obligé pour lui, mais on le réveille de temps en temps. De temps en temps pour que, yani, il s'habitue à la salat. Pour que il s'habitue à la salat, Inch'Allah ta'ala. Et aussi, on peut le réveiller quand il y a beaucoup de différences. Quand il y a un grand temps entre la salat et l'école. On peut le réveiller, ensuite il va, mashallah, dormir 3 autres heures ou la 4 heures. Là aussi, on peut le réveiller pour qu'il dorme beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Le frère Abu Abdullah Firansi est bloqué. Naam, 1h15 au Koweït, sah. Il reste un quart d'heure, inshallah ta'ala. Naam. Abou Haroun, est-ce que c'est toi avec lequel on a parlé au téléphone avant-hier ou là c'est pas toi? Abou Haroun, est-ce que c'est toi ou là c'est pas toi avec lequel j'ai parlé avant-hier au téléphone? Ah, d'accord. On vient de me dire qu'il y a, on vient de me dire qu'il y a Wesmo, qu'on doit se voir après le DAS, n'est-ce pas? Qu'on devait se voir après le DAS, n'est-ce pas? Oula, je me suis trompé. Parce qu'il y a Omrania, ça fait très longtemps que je devais lui dire. Naam. Tu m'attendras, Inch'Allah Ta'ala, un quart d'heure après Omrania. Ça fait longtemps que je devais lui répondre, Inch'Allah Ta'ala, à sa question. Naam. طيب أحمد أبو هود أحمد أبو هود تفضل. Peut-on repousser صلاة العشاء pour vos دروس؟ Si la mais si si la اسمها si la mosquée est loin si la mosquée est loin et que en repoussant la salat tu vas la faire au moins avec quelqu'un pas seul tu vas la faire au moins avec quelqu'un et que la mosquée est loin Inch'Allah Ta'ala ça fait rien sinon tu peux enregistrer le das. Tu peux aller faire la salat à la mosquée et enregistrer le dars et l'écouter par la suite. Inch'Allah ta'ala. Dam. Je fais descendre ceux qui ne sont pas dans la liste. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Rahmatullahi wa barakatuh. Maghfiratuh. Barakallahu fik pour le dars. Je voudrais que vous réexpliquiez ce que vous avez dit lorsqu'on effectue le sujoud sur un tapis. En effet, je n'ai pas compris. Lorsqu'on prie sur un tapis et que l'on a les pieds hors du tapis, on ne doit pas poser le nez sur le front, le front sur le tapis. Chauffe, Abu Houd, Ahmed Abu Houd, si tu m'entends, écris numéro 1. Ahmed Abu Houd, si tu m'entends, écris numéro 1. Jazakallahu khayran. Cher frère Ahmed Abou Houd, regarde. Je suis en train de parler de la meilleure position. Naam. Quand on prie sur un tapis simple, qui a 1 mètre, on prie, la salat est acceptée. Inch'Allah, on a prié, on a fait la salat, machin. Maintenant, je parle, si on veut faire la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la prière qui penche un peu vers la perfection. On veut la faire parfaite, bidna, comme était celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il y a une différence. J'ai dit que le tapis 1 mètre ne suffisait pas. Car on va se prosterner un peu plus loin que 1 mètre. Car on doit laisser entre nous et la sutra 1,50 m. Quand on est debout. Et quand on se prosterne, on laisse 2 empans. 2 empans. Entre nous et la sutra. Donc on doit se prosterner yani assez loin de nos pieds. C'est pour ça qu'un tapis de 1 mètre ne suffit pas. Non. C'est pour ça, si on a un tapis d'un mètre, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on met les pieds avant le tapis. Comme ça, notre tête sera à la fin du tapis. Le qaddam, à l'avant, là-bas, où commence le tapis, là-bas. On va poser notre tête. Mais nos pieds doivent être un peu loin du tapis, pas sur le tapis, pour s'allonger. Comme ça, quand on fait la prosternation, on s'allonge à l'avant. On ne fait pas la prosternation ici devant nos genoux. On va là-bas, loin. Ça. Et j'ai dit, maintenant, si on met nos pieds sur le tapis, où il commence le tapis, donc notre tête, on ne peut pas la mettre sur le tapis. Sinon, on va se trouver courbé. On va se trouver yani comme un hérisson. On va trouver nos coudes qui vont toucher nos côtes. Car 1 mètre, c'est rien. Donc, on est obligé de poser notre tête un peu plus loin que le tapis. Voilà ce que je voulais dire, c'est tout. Je ne sais pas maintenant, il y a Ahmed, si tu as compris ou là je réexplique. Dis-moi, Barakallahu fik, si tu as compris ou là je réexplique. Je suis là pour expliquer et réexpliquer. Dis-moi, n'aie pas honte. Dis-moi si tu as compris ou là je répète, Inch'Allah Ta'ala, j'ai pas de difficulté à répéter. J'ai peut-être des ajr. Naam, c'est clair, barakallahu fik, alhamdoulilah, ça me fait plaisir que ça soit clair. Naam, car le tapis 1 mètre, ça suffit pas. Il doit être, yani, plus d'1 mètre. Naam. إن شاء الله تعالى الحمد لله tu as compris. أم نوفل تفضلي. أم نوفل. أبو حليمة 79. أبو مريم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. طيب أبو مريم أعطوني سكون. Qu'en est-il d'une personne qui a juré sur Allah Azza wa Jal en ayant vraiment l'intention de respecter le serment, mais qui a oublié involontairement de faire ce pour quoi elle a juré? Doit-elle quand même nourrir 10 pauvres ou jeûner 3 jours? Attends, il faut que je comprenne la question. Une personne qui a juré sur Allah Azza wa Jal en ayant vraiment l'intention de respecter son serment, mais qui a oublié involontairement de faire ce pour quoi elle a juré. طيب maintenant Oum Nawfal, c'est moi qui te pose la question. C'est moi qui te pose la question. La chose que tu as juré de faire, est-il toujours possible jusqu'à présent de la faire ou la khlas elle est terminée? La chose que tu as juré de faire avec yani sincérité, elle est toujours présente. Tu peux la faire maintenant ou la khlas elle est terminée car tu yani en l'oubliant, khlas, elle est partie. Si tu n'as pas compris, je te donnerai un exemple. Dis-moi, si tu n'as pas compris, dis-moi, tu n'as pas compris, donnez-moi un exemple. Taïb, oui. Oui, c'est quoi? Oui. Elle est terminée, on peut toujours la faire. Et donc, je ne vois pas pourquoi tu ne la fais pas maintenant. Pourquoi tu ne la fais pas? Donc, il faut la faire maintenant, puisque tu as juré de faire cette chose. Ensuite, tu as oublié de la faire. Et maintenant, tu peux la faire maintenant. Pourquoi tu la fais pas? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient de la faire? J'attends, inchallah ta'ala, ta réponse. Parce que j'avais dit à telle date je ferai. Ah, naam. Ça. Naam. Si quelqu'un dit à telle date je ferai, ensuite il a oublié, il n'a rien bi'idnillah azza wa jal. Naam. Il n'a rien bi'idnillah azza wa jal. Si c'est attaché, ça a été attaché à une date. Naam. Ensuite, il a oublié, il n'a rien bi'idla azza wa jal. Mais s'il voit que s'il l'a fait maintenant, ça a le même effet, il peut la faire. Si ça, il voit qu'il a, ça a le même effet, il peut la faire. Par exemple, j'ai juré que, Par exemple, nous sommes maintenant mercredi, je dis comme ça, je jure que vendredi je vais faire manger un pauvre. Ensuite j'ai oublié. Ça y est. Ensuite, il est possible maintenant, nous sommes samedi ou le dimanche, il est possible que je fasse manger un pauvre. Ça, c'est pas obligé que ça soit un vendredi. Donc, je rattrape et je le fais manger. Ça n'a pas vraiment rapport avec le vendredi. Hein? Et je le fais manger un samedi ou là. Et Inch'Allah Ta'ala, c'est mieux. Mais si par contre on jure sur une chose, et cette chose, khlas, est partie. On ne peut plus la faire ici, ce n'est pas la peine de la rattraper, ni de faire le jeûne, ni rien. Hein? Quand on jure sur une chose, qui khlas, elle est partie. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. طيب السلام عليكم دي الصلاة الجمعة peut-on dire نعم peut-on dire صلى الله عليه وسلم lorsque le nom du message est cité qu'il est même sur le minbar et qu'il fait la khutbah. Je mets la question car le financier est bloqué. Cher financier, je ne l'ai pas trouvé pour le débloquer. Quand l'imam dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم quand lui il dit صلى الله عليه وسلم toi aussi tu dis. Non, toi aussi tu dis. Pourquoi? Parce que on ne doit pas parler quand l'imam fait la khutbah pour ne pas sortir de la khutbah. Quand on parle, on dit des choses ou là, on s'oublie, on est distrait, l'imam est en train de parler des choses. Mais maintenant quand lui il a dit Muhammad ou il a dit Rasulullah en principe, lui aussi, il va dire sallallahu alayhi wa sallam. Donc moi, je profite quand il dit lui, sallallahu alayhi wa sallam, que je dise moi, sallallahu alayhi wa sallam. Mais je le dis à voix basse. Je le dis à voix basse. Naam, à voix basse. Je le dis entre mes lèvres. Je le dis entre mes lèvres. Les ulama ont dit, sauf si l'imam nous demande de le faire. Il dit par exemple, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi. Il dit comme ça, sallu 'alayhi. Là, tu dis à voix haute. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Islamiyya tafaddali ou la tafaddal. Islamiyya 3. Tafaddal. Nous sommes dans les 5 dernières minutes, inshallah ta'ala. Inch'Allah ta'ala, demain ou la vendredi. Demain ou bien vendredi, on va faire 2 heures seulement de questions-réponses. Demain, inch'Allah ta'ala, après les repères de la sunna, sinon vendredi, après les repères de la sunna, si vous me trouvez pas demain, ça veut dire après demain vendredi, après les repères de la sunna, inch'Allah ta'ala, on fera 2 heures spécialement pour vos réponses. Tayyib, l'islamia peut-être qu'elle n'est pas là. Abu Hudayfa. 76, tafaddal. Islamiyya, tafaddali. Tayyib, Abu Hudayfa, 76, ça ne fait rien. Tu as commencé avant elle. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, wa rahmatullah. Que Allah vous préserve. Amin. Et qui te préserve, toi et tous ceux qui sont dans la salle. Et tous nos frères, les croyants et nos sœurs les croyantes. Si je travaille en déplacement, le vendredi des fois, la mosquée la plus proche est pas avant 10 km. Est-il permis de ne pas y aller? À partir de quelle distance la prière du Jumu'ah devient obligatoire? Que l'on soit en voyage ou muqim. Barakallahu fikum. Naam. Moi, quand j'ai fait ma thèse sur Salat Jumu'ah, car j'ai dû vous le dire que ma thèse de magistère c'est sur Salat Jumu'ah. J'ai trouvé 4 ou 5 avis sur la distance de laquelle on doit aller à la Jumu'ah. Et j'ai choisi l'avis qui dit que on va à la Salat Jumu'ah de la distance où on peut entendre le Mu'adhan. C'est-à-dire comme l'autre salat, comme la salat normale. On va à la salat Jumu'ah à partir d'un endroit où, si le mu'adhan va faire le adhan, je peux l'entendre. S'il n'y avait pas les immeubles, s'il n'y avait pas les voitures, s'il n'y avait pas les usines, s'il n'y avait pas le bruit, etc. Tout ça, ça rentre, inshallah ta'ala, dans le contexte. Naam. C'est ça, la vie le plus sûr, d'après le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que c'est le Jumu'ah à la maman, Sami al-Nida, ou quelque chose comme ça. Naam. C'est ça, Inch'Allah ta'ala, la vie le plus sûr. Le Jumu'ah à la maman, Sami al-Nida. C'est ça, la vie le plus sûr. D'après le hadith, man sami'a al-Nida, falam yujib, fala salata lahu illa min adhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, quand on est vendredi en voyage ou là en déplacement et ça, et que la mosquée est loin, naam, surtout si on a fait un grand déplacement, on devient quoi? On devient voyageur. Naam. Et le voyageur, la vie le plus sûre, c'est que s'il est près de la mosquée, il entend l'adhan, il doit faire la salat dans la mosquée. Mais s'il est loin, comme j'ai dit tout à l'heure, ça, c'est autre chose. Assalamu alaikum, alaikum salam wa rahmatullah. J'aimerais savoir si pendant le das du Jumu'ah, il est permis de dire Amin aux invocations prononcées par l'imam. Mais sachant que c'est bid'ah de faire des invocations à ce moment-là, et aussi lorsqu'on commence la salat, est-ce qu'on peut dire l'adhan à voix haute en l'embellissant? D'ailleurs, pour la première question, et qui permet de faire des invocations. Naam, Abu Marim, Jazakallahu khayran. Pour la première question, est-ce qu'il est permis de dire Amin aux invocations prononcées par l'imam, sachant que c'est bid'a de faire des invocations? Pour la bid'a, Islamiyya, je te fais remarquer une chose. Pour la bid'a, ce n'est pas bid'a de faire les invocations. C'est bid'a si on les fait tous les jours. Si de temps en temps, l'imam fait des invocations sur le minbar, ce n'est pas bid'a. La bid'a, c'est s'il le fait tout le temps et s'il lève les mains. S'il lève les mains pour faire les doigts. Là, on rentre dans la bid'a. Donc, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamou, c'est ja'iz. Et ce n'est pas mashroua. C'est ja'iz et ce n'est pas mashroua. Ça veut dire c'est permis, mais ce n'est pas conseillé. C'est tout. Mais c'est permis. Si quelqu'un fait des doigts, mimbar, l'imam fait des doigts, toi tu dis amin à voix basse, seulement avec tes lèvres, et on ne lève pas les mains. Ce n'est pas interdit qu'il fasse des doigts, mais c'est bid'a quand il fait chaque jumwa. Voilà la différence entre les deux. Quant à la dernière question, je ne l'ai pas comprise. Je ne l'ai pas comprise. Est-ce qu'on peut dire l'adhan? Ah, khlas, j'ai compris. Là, ici, lorsqu'on commence la salat, est-ce qu'on peut dire l'adhan à voix haute en l'embellissant? Naam. L'adhan, on le dit à voix haute. Naam. On le dit à voix haute quand on le fait pour faire venir les gens à la prière. Maintenant, si c'est à la maison, on ne le fait pas à voix très haute. On se fait entendre juste dans la pièce. Dans la pièce, je dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, pour qu'ils m'entendent seuls, yani, qui sont arrivés. On m'a dit que c'est bid'a d'embellir la voix. Naam, ça dépend comment on va embellir. Naam, naam, ceux qui font comme ça avec un embellissement qui sort de la nature, là, naam, ça devient bid'a. On le fait, ça ne fait rien si on a une voix forte et une belle voix, mais on le fait normalement, naam, sans l'embellir, c'est-à-dire sans faire l'ahn. Mais si on a une belle voix, c'est bien pour l'adhan. On a une belle voix, quand on entend quelqu'un, yani, on sent quelque chose dans le cœur. Mais sans, on peut le faire avec une belle voix sans embellir l'adhan. C'est-à-dire sans ajouter des choses comme ça. Normalement, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand quelqu'un a une belle voix, même quand il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, on sent déjà quelque chose dans son cœur, tellement sa voix est belle. Mais c'est pas la peine d'ajouter des choses. Allah, on dit comme ça, c'est pas la peine. Tout ça, ça rentre dans la bid'a. Mais quelqu'un qui a une belle voix, il peut faire le adhan normalement et naturellement. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, pour le dars d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, inshallah ta'ala, ou bien demain, ou bien après-demain. Ce sera après quoi? Après le repère de la sunnah. Après le repère de la sunnah, inshallah ta'ala, reste Umraniya. Où est-ce qu'elle est, Umraniya? Naam, Umraniya. Une seconde, inshallah ta'ala. Et voilà, j'ouvre Hadi. Et où est-ce qu'il est l'autre Abou, comment il s'appelle? Naam. Umraniya, une seconde. Maintenant, je parle avec Abou Haroun. Où est-ce qu'il est, Abou Haroun? Je ne sais pas s'il est là. Abou Haroun, si tu es là, lève la main, Abou Haroun. Si tu es là, lève la main. Ya Abou Haroun, si tu es là. Pour ouvrir un PV avec toi. Naam.